Tout à l'heure. Voilà, donc c'est peut-être peut-être l'occasion pour vous aussi de vous poser, de vous détendre un petit peu. Donc, je suis très heureux d'être là parmi vous. C'est depuis le mois de juin que je suis venu. Et je souhaitais qu'on aborde aujourd'hui un sujet qui est, on pourrait dire, élémentaire dans la pratique spirituelle, et plus particulièrement pour celle qui nous intéresse, c'est-à-dire le bouddhisme, qui est la générosité. En fait, la générosité, il n'y a pas que, évidemment, les gens qui sont engagés dans la spiritualité, qui la pratiquent. On peut voir au quotidien, d'ailleurs, cet élan qu'il y a en France, dans le pays, et d'une manière générale, en Europe. Puis la France est assez réputée aussi pour être quand même un pays généreux. On peut développer, évidemment, la générosité au quotidien. La générosité, qu'est-ce que c'est finalement? C'est l'ouverture du cœur. Et c'est vraiment important parce que si on n'a pas le cœur ouvert, l'esprit ne peut pas être ouvert non plus. Et de fait, on n'a pas la possibilité de pouvoir progresser vers la libération de la souffrance. C'est pour ça que dans cet enseignement qu'on appelle les six paramita, ça veut dire aller au-delà, passer au-delà, eh bien la générosité est la première des qualités d'éveil que l'on doit développer. Et ça, évidemment, tout le monde peut le faire, mais peut-être que pour certaines personnes, c'est plus difficile. Et qu'est-ce qui va nous permettre, finalement, de pouvoir développer la générosité? Eh bien, c'est nos rapports avec les autres. S'il n'y avait pas des gens qui sont dans la souffrance, qui sont dans le dénuement, dans les besoins, tout ce qu'on peut rencontrer à l'heure actuelle, eh bien, nous n'aurions pas l'occasion de développer la générosité. Donc pour nous, ce qui signifie que les autres, tous ceux que nous côtoyons, tous ceux qui nous entourent, sont pour nous des supports de pratique. C'est grâce donc à toutes ces personnes qui sont dans les problèmes, dans le dénuement, puisque c'est de ça dont il s'agit, il serait donc impossible pour nous de pratiquer la générosité. Donc c'est bien, en effet, grâce aux autres que nous pouvons développer cette qualité-là. Important. Il est dit que si nous ne possédons pas cette qualité, cette vertu qu'est la générosité, eh bien, nous nous trouverons sans cesse confrontés à des conditions d'existence difficiles, dans des situations aussi de pauvreté. Et donc il nous sera impossible, en effet, de fait, d'accomplir le bien des êtres et finalement de nous libérer nous-mêmes de la souffrance. Souvent on peut se poser des questions, se dire « mais moi-même, dans cette vie, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir aider les gens, pour être... j'étais généreux, etc. Et je rencontre des difficultés. Moi-même, je suis dans la pauvreté. Moi-même, je rencontre des problèmes dans ma vie. » Alors évidemment, la réponse à cela, elle est celle-ci. Mais qu'as-tu fait dans ta vie d'avant? Quelqu'un qui a été avare dans sa vie d'avant, qui n'a pas été généreux, qui n'a pensé qu'à soi-même, qu'à lui-même, eh bien, il récolte les fruits de cela dans cette vie. Puisqu'évidemment, pour nos bouddhistes, la vie que nous avons ici, elle n'est pas la seule, elle n'est que le résultat de ce que nous avons engendré dans nos vies précédentes. La vie elle-même est indestructible, c'est une succession d'expériences, et avant celle-ci, dans ce corps humain et dans ce monde, nous en avons eu d'autres, des expériences. Et à travers cette expérience, quelle qu'elle ait pu être, enfin sous quelle forme, quelle que soit la forme que nous ayons pu avoir, nous avons accompli toutes sortes d'actions. Des actions positives, mais aussi des actions qui ne l'étaient pas. Et peut-être que si nous manquons de tout dans cette vie-ci, ça veut dire certainement, très certainement, que dans notre vie d'avant, nous n'avons pas été généreux. Nous n'avons pensé qu'à nous-mêmes. Et c'est ce qui fait qu'on rencontre toutes ces difficultés dans cette vie. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il n'y a pas de hasard. En règle générale, lorsqu'il nous arrive des désagréments dans cette vie, on pense tout le temps que c'est la faute des autres. Ça, c'est le... évidemment, c'est la réaction qui est commune à tout le monde, enfin, tous les êtres du monde, mais du moins qui sont des êtres ordinaires. S'il m'arrive ceci ou cela, c'est de la faute des autres. Or, il est bien évident que ça ne marche pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, nous sommes à l'origine, évidemment, de tout ce qui nous arrive dans cette vie. Même, on a pu peut-être être quelqu'un bien dans cette vie-ci et récolter les fruits, évidemment, négatifs, de ce que nous avons semé dans les vies d'avant. Donc la pauvreté, c'est pas forcément la pauvreté que nous subissons dans cette vie n'est pas forcément de la faute des autres. C'est qu'on a créé les causes par le passé. Excusez-moi, j'ai un problème de gorge. Donc déjà, en sachant ça, se dire que j'ai peut-être dans cette vie quelque chose à cultiver, que je n'ai pas fait dans la vie d'avant, et c'est pour ça que je me trouve face à des difficultés dans cette vie. Donc ça nous ramène toujours finalement à nous-mêmes. À faire le bilan de ce que l'on est, voir comment on fonctionne dans cette vie, voir nos défauts, et travailler sur ces défauts-là. Mais il y a des personnes, je me rappelle d'une histoire qui est racontée dans notre tradition bouddhiste, une personne était venue voir un grand maître, et cette personne-là, ce jeune homme, était incapable de faire preuve d'un seul acte de générosité. Et le maître lui a dit, mais oui, c'est parce que justement, dans ta vie d'avant, tu n'as pas été généreux. Et ça continue tant que tu ne changeras pas. Eh bien, les choses ne changeront pas. Tu seras toujours dans des problèmes dans cette vie et incapable de pouvoir donner avec le cœur aux autres. Alors, le jeune qui dit au maître, dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et le maître a pris une pomme dans la main et lui a donné la pomme dans sa main. Il a dit, maintenant, tu as la pomme dans ta main droite, et bien apprends à la donner à la main gauche. De la main gauche à la main droite. De la main droite à la main gauche. C'est l'exercice qu'il lui a donné à faire au début. Et donc le jeune homme s'est entraîné à faire ça, il a eu du mal, parce que ce n'était pas dans ses créneaux de faire ça. Et petit à petit, à force d'entraînement, il a été capable de donner la pomme à quelqu'un d'autre, plutôt que de sa main droite à sa main gauche. Et c'est comme ça que petit à petit, il a semé les graines en lui-même de la générosité. Vous voyez, il suffit de peu de choses, finalement, au niveau de l'entraînement, pour que ça s'imprime dans l'esprit. Donc, pourquoi nous ne sommes pas généreux? Tout simplement parce que nous avons des peurs. Nous avons la peur de manquer. Et pour nous, la pire des choses, ce serait de donner quelque chose auquel on est attaché, on est le plus attaché. Eh bien, on s'entraîne aussi dans notre pratique bouddhiste à donner déjà les choses de manière simple. Et puis après, plus on avance sur la voie, on va être capable de donner même les choses auxquelles on tient, mais sans qu'il y ait justement de regrets au fond de nous-mêmes. Ça se fera de manière naturelle. Alors, il ne s'agit pas évidemment de se démunir de tout donner, mais simplement de créer cette ouverture d'esprit qui est fondée sur le non-attachement et qui nous permettra d'être véritablement utile vis-à-vis des autres par cette générosité. La générosité, évidemment, elle peut s'exprimer de différentes façons, au niveau de l'esprit, au niveau du corps, au niveau de la parole aussi. Quelquefois, on peut être généreux simplement à travers l'écoute d'une personne qui est en souffrance. C'est aussi un acte de générosité. Ça peut être aussi un don matériel que l'on va faire à quelqu'un qui en a besoin, de la nourriture par exemple, ou un toit, ou un abri, des soins que l'on peut donner à une personne, etc. La générosité peut s'exprimer de différentes manières. Et le Bouddha dit lui-même, il dit, celui qui ne pratique pas la générosité sera dépourvu des jouissances matérielles et n'aura pas la capacité d'attirer à lui et de rassembler les êtres. Il est donc inutile, dit le Bouddha, de parler de sa compétence à réaliser l'éveil ultime, c'est-à-dire l'état de Bouddha. Et qui plus est, il se peut aussi, il est dit dans les textes, qu'après notre mort, nous soyons amenés à reprendre naissance dans des mondes inférieurs, les mondes qu'on appelle les esprits avides, où règnent de grandes souffrances telles que la faim et la soif. Parce qu'évidemment, notre monde humain n'est pas le seul, il y a d'autres niveaux de conscience, et ces niveaux de conscience dans lesquels nous réapparaissons sont toujours en lien avec ce qu'on a cultivé en nous-mêmes. Plus on a cultivé évidemment de choses positives, bénéfiques, et bien plus nous aurons une renaissance dans une dimension favorable où ne règne pas la souffrance ou beaucoup moins. A l'inverse, évidemment, si nous avons été égoïstes ou si nous avons mené une vie pas fondée sur l'amour, la compassion, etc., nous risquons d'avoir une mauvaise renaissance, ou même si nous renaissons en tant qu'humains, eh bien nous pouvons rencontrer beaucoup de difficultés comme on voit à l'heure actuelle. Il y a des gens, par exemple, il suffit de voir tous les pays sous-développés, où ces gens meurent de faim, de soif, où il y a des maladies, où il manque de tout, il y a des guerres incessantes. Et bien, ce sont des gens qui ont créé des causes dans leur vie passée et qui ont fait... Ils ont eu le bon karma, d'une certaine manière, quand même, de renaître en tant qu'être humain, mais ils sont apparus dans des mondes de difficultés. Donc, la générosité, c'est vraiment la base sur laquelle va se développer tout notre cheminement spirituel. Et c'est pour ça que donc elle est placée en premier lieu dans ce qu'on appelle ces six paramitas, ces six qualités vertueuses, transcendantes, que l'on doit développer tout au long de notre cheminement. Alors, c'est la première. La seconde, bien sûr, la générosité, c'est la conduite, la discipline éthique, parce que sans éthique, évidemment, on ne peut pas progresser sur la voie. On a besoin d'avoir une conduite correcte, qui respecte les autres. Hein, et cette conduite éthique, bien entendu, elle est fondée sur le fait de ne pas nuire aux êtres, de ne pas tuer, pas voler, pas mentir, d'avoir une conduite physique ou sexuelle sur une activité sexuelle juste, de ne pas s'enivrer, de ne pas se droguer, etc. Cette conduite éthique va faire que ça va, avec l'entraînement, imprimer en notre esprit ces habitudes, de nouvelles habitudes qui vont devenir après quelque chose d'automatique, quelque chose qui n'ont pas de difficultés à faire parce que ça deviendra notre mode de fonctionnement. Et pour les autres, nous devons être un exemple. Et quelqu'un qui serait peut-être généreux, mais qui n'aurait pas une conduite, si vous voulez, appropriée, une conduite éthique, eh bien, non seulement cette personne ne progressera pas, mais il ne sera d'aucune utilité, véritablement. Quand on a une éthique de vie, eh bien, les gens nous font confiance. Et si les gens nous font confiance, eh bien, à ce moment-là, il y a une ouverture dans le rapport humain qui se passe, et on peut, à ce moment-là, être véritablement utile, apporter aux autres ce qu'ils ont besoin. Non pas forcément ce qu'ils veulent, mais c'est surtout ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est donc la deuxième des qualités transcendantes d'éveil. La troisième, c'est la patience. Ah oui, parce que sans patience, on n'arrive à rien. On dit que c'est une qualité maîtresse, la patience, parce que dans ce monde, rien n'est facile. On rencontre beaucoup d'opposition, nos souhaits bien souvent ne sont pas forcément réalisés d'emblée. Tout ce que nous souhaitons, eh bien, bien souvent, il faut du temps pour que ça arrive, et dans tous les domaines de notre vie quotidienne d'ailleurs, et nous avons tout intérêt à développer la patience. Donc c'est une qualité aussi maîtresse. Et puis ensuite, bien entendu, pour cela, la qualité suivante, c'est la persévérance. Si nous ne sommes pas persévérants dans ce que nous entreprenons, et là qui plus est, bien entendu, par rapport à notre chemin spirituel, eh bien, il n'y aura aucun fruit qui apparaîtra. C'est normal, c'est compréhensif. Hein, je veux dire, nous avons des mauvaises habitudes qui nous viennent de nos vies passées, peut-être de cette vie, et elles ne vont pas s'éliminer de cette manière. Et les qualités qui sont peut-être déjà présentes en nous, si elles sont encore, pas vraiment développées, nous avons tout un travail à faire pour pouvoir à la fois éliminer ce qui est mauvais et faire des efforts pour développer ce qui est bon. Donc ça va nous demander de l'entraînement. la persévérance, c'est ça, le chemin spirituel. D'ailleurs, dans la vie quotidienne aussi, si on entreprend un métier, un travail ou des études, ben, il faut être persévérant dans son métier pour arriver à quelque chose, pour apprendre quelque chose ou faire des études aussi. Ben, il faut aller au cours, il faut être persévérant dans l'étude, dans la réflexion, etc. Donc c'est une qualité qui est importante sur le chemin spirituel, la persévérance. C'est-à-dire qu'on va pratiquer mais avec une bonne motivation juste et d'une manière diligente et quotidienne. Il ne s'agit pas de s'engager comme ça sur une voie spirituelle, dire « Oh, ben, je ferai ça quand j'y penserai, quand j'aurai le temps ». J'entends souvent des gens dire « Oh, ben, oui, mais moi, je commencerai à pratiquer quand je serai à la retraite, parce que pour l'instant, je n'ai pas le temps ». Mais qu'est-ce qui dit qu'on parviendra déjà à l'âge de la retraite ? On est vivant aujourd'hui, et puis on peut très bien mourir tout à l'heure, ou demain, ou dans 10 jours. On ne sait pas. Donc, tout le temps que nous aurons perdu, si vous voulez, à la distraction, à faire des choses qui n'ont pas d'intérêt, et à manquer de persévérance dans ce qui est positif, dans le développement de qualité, eh bien tout ce temps-là sera perdu, et donc et on ne pourra pas évidemment le récupérer. Donc, ensuite, la qualité suivante, ben, on parle là, à ce moment-là, de la concentration, de la méditation, parce qu'évidemment, si on n'est pas concentré sur ce que l'on fait, si on ne pratique pas la méditation, il n'y aura pas non plus d'évolution possible. Et toutes ces cinq paramitas vont ouvrir le champ à ce qu'on appelle la sagesse, la sixième de paramita. C'est-à-dire que si on met en application de manière diligente ces qualités précitées, eh bien, nous réaliserons la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse ? On ne sait pas d'avoir 80 ans avec une grande barbe blanche, ça n'a rien à voir avec ça. On ne parle même pas de la sagesse ordinaire. La sagesse, c'est la connaissance de la réalité de la nature des choses, de nous-mêmes, notre véritable nature, et la nature de l'esprit, et la nature des phénomènes qui apparaissent dans notre courant de conscience. Donc, on va, grâce à cette accumulation de mérites que sont ces cinq premières paramitas, petit à petit, cette sagesse va naître en nous, cette connaissance va naître en nous, progressivement. Et donc, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, la générosité est vraiment le début. Est-ce qu'on prend la décision d'ouvrir notre esprit aux autres, de faire le bien des autres, d'arrêter d'être fixé sur nous-mêmes et d'être généreux. Et le Bouddha dit d'ailleurs s'est exprimé de cette manière par lui-même, il dit « L'être généreux est aimé de tous. Son amitié est hautement appréciée. Au moment de sa mort, son cœur est en repos et plein de joie car il n'a point de remords. Il reçoit la fleur épanouie de sa récompense et le fruit qui en mûrit. » Alors, les bienfaits, en effet, de la pratique de la générosité sont vraiment d'obtenir, on pourrait dire, des capacités les moyens d'œuvrer pour le bien des êtres. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre progrès spirituel et la recherche de notre propre bonheur et l'obtention de notre propre bonheur ne peut pas se faire au détriment du bonheur des autres. Et c'est en ça que la générosité est importante. C'est-à-dire que dans notre chemin vers la libération de la souffrance, nous devons inclure tous les êtres avec nous. C'est-à-dire qu'on les amène avec nous. Sans ça, l'éveil n'est pas possible. Si on veut se libérer tout seul dans notre coin en ignorant complètement ce que vivent les autres, eh bien, le cheminement n'est pas possible. Donc, dans la voie du Mahayana, la voie du Bodhisattva, le Bodhisattva lui-même progresse, emmène les autres en progressant lui-même sur la voie. Il emmène les autres avec lui. C'est ce qu'on appelle la voie du passeur. Le passeur, il a son bac. Un bac, pas le diplôme, mais sa barque, hein, et comme ça se faisait beaucoup au Tibet, puisque cette image-là, elle est un peu issue de la tradition tibétaine, on passait une rivière, bah, ils avaient une grande barque avec en podiac, et bien le passeur, pour arriver sur l'autre rive, il emmenait les gens avec lui, et lui, il emmenait cette barque de l'autre côté pour arriver sur l'autre rive. Donc c'est ça, cette idée, c'est-à-dire que pour nous, acquérir l'éveil, aller au-delà de la souffrance, eh bien, c'est aussi emmener les autres avec nous. Sans ça, ce n'est pas possible. Si on veut le faire que pour nous-mêmes, ça ne marchera pas. on ne progressera pas. C'est ce qu'on appelle donc l'activité du bodhisattva, une activité qui est fondée sur l'amour, la compassion et forcément la générosité. Parce que pour qu'il y ait l'amour et la compassion, il faut être généreux, il faut être capable de donner sans réserve. Le Bouddha explique encore, par la pratique de la générosité, l'individu transforme toutes les situations et il fait mûrir les êtres. Celui qui est généreux obtient facilement la réalisation de l'insurpassable éveil. Celui qui pratique la générosité obtiendra des possessions, alors que celui qui garde jalousement pour lui ses acquisitions en sera dépossédé. Celui qui est généreux est au cœur des bienfaits. Celui qui ne la pratique pas, son activité est inutile. Celui qui pratique la générosité n'a pas à rechercher une protection contre la souffrance. Et celui qui ne la pratique pas doit s'efforcer de se protéger contre toutes sortes d'afflictions. Et donc la vie devient beaucoup plus facile dès l'instant où on pratique cette générosité. Il y a une chose qui est physique, complètement physique. Par exemple, vous avez de la soupe dans votre assiette. Mais si vous ne videz pas la soupe, il n'y a rien qui peut venir. Il faut d'abord vider la soupe. C'est-à-dire, vous la donnez à quelqu'un, donc votre assiette est vide, donc elle peut contenir autre chose. Non. C'est une image un peu stupide, mais peut-être basique. Mais l'idée, c'est ça. Pour pouvoir recevoir, il faut donner. Si on ne donne pas, on bloque l'énergie cosmique, qui fait qu'on ne reçoit pas. Donc l'énergie, la propriété essentielle de l'énergie, c'est qu'elle circule. On ne peut pas empêcher l'énergie de circuler. Si on l'empêche de circuler, tout se bloque. Donc la générosité, c'est ça, c'est permettre à cette énergie de circuler. On donne, on est capable de donner, et si on est capable de donner, on reçoit. C'est une logique qui est incontournable. C'est comme ça que ça se passe. Dans la réalité, ça peut être discuté physiquement, par la physique. Là, on est au niveau spirituel, mais c'est exactement pareil. Et ce qui revient à dire, donc, que celui qui ne pratique pas la générosité sera donc en but à de nombreux conflits et de nombreuses difficultés dans sa vie. Il sera confronté à l'agression et à de nombreuses frayeurs, et il est dit, ne fera qu'engendrer un chemin démoniaque. Toutes les jouissances qu'il pourra rencontrer seront très rapidement épuisées. C'est la résultante, donc, de ce manque de générosité. Par contre, évidemment, à l'inverse, celui qui pratique la générosité ne connaîtra pas les conflits, il sera en paix avec lui-même et avec les autres. Toutes les jouissances justes seront sans limite et il mettra en œuvre la voie qui mènera à l'éveil d'un Bouddha, c'est-à-dire à la libération totale de la souffrance. Et comme l'expliquait l'instance que j'ai citée tout à l'heure, l'instance du Bouddha, tout ce que nous expérimenterons au moment de notre mort, au moment de quitter ce corps, eh bien, ça sera le résultat de la façon dont nous aurons orienté notre esprit en cette vie. Si nous avons été bons, si nous avons été généreux toute notre existence, eh bien, nous mourrons sans aucun remords, nous aurons l'esprit paisible, et car nous aurons accompli tout ce qui était juste, nous aurons créé les conditions de notre propre bonheur futur, et même si nous avons rencontré quelques difficultés en cette vie. Donc, en fait, on prépare l'avenir. Le fait de développer les qualités d'éveil en nous, développer ces paramitas, même si on ne récolte pas forcément les fruits tout de suite de cela, nous les récolterons ou plus tard dans cette vie ou dans la vie prochaine. Si nous sommes sans arrêt attachés à nos possessions, si nous sommes attachés à nos biens, nos jouissances personnelles, eh bien, beaucoup de voiles viendront obscurcir notre esprit. Et au moment de quitter notre corps physique, eh bien, nous n'aurons aucune liberté à ce moment-là. Nous serons emportés totalement, complètement, par la force de notre karma. Nous n'aurons aucune faculté, si vous voulez, pour transformer cet état, car nous n'aurons rien fait pour cela durant notre vie. Les conditions vertueuses n'auront pas été créées du fait qu'on n'aura pas eu cette démarche-là, on ne se sera pas mis en mouvement pour voir comment on fonctionne et transformer nos défauts en qualités. Hein. On n'aura rien fait durant cette vie et les conditions vertueuses n'auront pas été créées au travers de notre corps, mais aussi l'expression de notre parole et aussi nos pensées. Et ce moment de la mort, bien entendu, se déroulera dans la souffrance et le dénuement total. Et l'essence même de cette générosité doit être sans attachement. C'est-à-dire qu'elle demeure libre de ce qu'on appelle la saisie réaliste. On donne parce que c'est naturel de donner. Il n'y a pas la conscience de quelqu'un qui donne, « Ah, je suis généreux, ah là là, c'est bien. » Mais on ne donne pas à n'importe qui, on va donner à quelqu'un que l'on aime, que l'on préfère. Et puis on va lui donner, pas forcément ce que la personne a besoin, peut-être ce qui nous fait plaisir. Ça, ce n'est pas la véritable générosité. La générosité, en effet, elle doit être empreinte d'intelligence, de détachement par rapport à notre ego, à soi-même. On voit l'autre, la personne, ses besoins, et on donne sans restriction. On donne ce que la personne a besoin sans avoir la conscience d'être quelqu'un de bien, de particulièrement évoluer par rapport aux autres, de se satisfaire de nous-mêmes. Ah, j'ai été vraiment généreux, je suis vraiment quelqu'un de bien. On doit être dégagé de ça. La générosité doit être quelque chose de spontané, sans qu'il y ait de saisie sur le sujet, l'objet que l'on donne, l'objet à qui on donne et l'acte lui-même. On doit être dégagé de ces trois aspects-là. Et si nous sommes en fait capables de donner tout ce que nous possédons, eh bien, c'est que nous avons compris que toutes ces choses n'ont aucune existence réelle par nature, puisqu'elles sont vouées à disparaître. Tout est impermanent. Tout apparaît à un moment donné, disparaît à un autre. Ce qui est né à un moment donné, eh bien, doit immanquablement disparaître à un autre moment. Donc, à quoi s'y attacher? Et cette conscience, justement, de l'impermanence, va faire que, pour nous, ça va être beaucoup plus facile de devenir généreux. Parce qu'on sait que, de toute façon, ce que l'on possède, on ne pourra jamais le garder. Même si on est attaché à un beau vase, ou une belle statue comme ça, demain, quelqu'un peut la renverser, la faire tomber et la casser. Si nous sommes attachés à cette belle statue, bien qu'elle représente le Bouddha, on va souffrir après, parce qu'on est attaché à cette pièce-là, on la possède, et c'est valable pour toutes les autres choses de notre vie quotidienne. C'est valable pour nos possessions, mais c'est aussi valable dans nos relations humaines. Et il y a quelque chose, vraiment une dimension sur laquelle on doit travailler, c'est cet attachement, et ce qui va nous aider vraiment à travailler dessus, c'est cette conscience que tout est impermanent, que rien ne dure. Ce qu'on a aujourd'hui peut disparaître demain. Même notre santé, on est en bonne santé aujourd'hui, demain on peut être malade. Voilà. On peut avoir une belle compagne, un bon compagnon aujourd'hui, et puis demain, il nous quitte. Voilà. Ça a peut-être connu tout ça, à un moment ou un autre, dans notre vie, et puis voilà, rien ne dure, et nous on pense que tout va durer. Tout dure sans cesse, et puis que rien, on n'a pas cette conscience-là, parce qu'il y a des voiles sur notre esprit. On est vraiment l'esprit, et vous voilez sur la réalité des choses. Et d'ailleurs, il suffit de voir comment la plupart des gens vivent. Ils triment comme des forcenés toute leur vie pour s'acheter des biens, pour s'acheter une belle maison, une belle bagnole. Et puis un jour, ils rentrent du boulot, la voiture a été brûlée par les voyous, la maison a été peut-être démolie par une bombe, un missile de M. Poutine ou je ne sais qui. Et voilà, tous nos efforts, d'un seul coup, peuvent être réduits à néant. Et si nous sommes attachés à tout cela, forcément ça va nous faire souffrir, parce que tout s'écroule, notre bien s'en va, mais même tout l'effort qu'on a produit pour pouvoir acquérir ce bien disparaît aussi. Donc il faut avoir conscience finalement que tout est impermanent, que tout est passager, que ce soit nos relations, nos biens, même ce corps, il est passager. Voilà, à un moment donné, il va falloir le quitter. Et ça, ça va faciliter cette capacité pour nous-mêmes à être généreux, à donner sans réserve. Donc c'est tout un travail qu'on doit faire sur soi, bien entendu, parce qu'il y a des gens qui ont cette capacité de pouvoir le faire comme ça d'emblée, mais pour d'autres, c'est plus difficile. Donc c'est un entraînement. Il faut le faire. Au début, j'ai donné ça, on va le regretter, je le regrette, j'aurais pas dû donner ça parce que c'était bien quand même. Et puis petit à petit, après, on va s'en moquer complètement. On va dire, bah oui, j'ai donné, mais du moment que ça sert à cette personne, c'est bien plus profitable que de garder cette chose là, comme ça, qui sert pas forcément à quelque chose et à laquelle je suis attaché. Et puis ça peut être vraiment sur des choses vraiment ordinaires. Dans mon expérience personnelle, moi, j'avais un père qui était très attaché à tout ça, à l'héritage, à ces choses. Et il gardait les moindres choses, le moindre bout de bois, il le gardait, il mettait de côté, ça peut servir. En fait, ça ne servait jamais, puisqu'il accumulait. Quand j'ai déménagé sa maison, il y avait une douzaine de chauffe-eau qu'il avait gardé, qui datait de ma puissance, qui ne pouvait servir à rien, mais on ne sait jamais ça peut servir. J'ai dû déménager des tonnes et des tonnes de choses qu'il a gardées depuis la guerre de 1940, des roulements à billes, les munitions, tout ça parce que cette espèce de truc de peur de manquer et de donner, ça ne lui a jamais servi à rien. Mais ça l'a empoisonné au moment de sa mort. Parce que lorsqu'il a fallu le placer dans une institution parce qu'il ne pouvait plus vivre seul, bien que c'était un bon endroit où on l'a placé, le fait de pouvoir débarrasser sa maison et de vider des tonnes et des tonnes de trucs qu'il avait gardés qui n'ont jamais servi, ça a été un déchirement pour lui parce qu'il n'a jamais pratiqué ça. Donc voilà, c'est l'exemple justement de ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, c'est toujours la peur de manquer, c'est la peur de... Voilà, on est pétri par les peurs. Donc c'est pour ça qu'on est, on n'est pas généreux, parce qu'on se dit que si je donne cette chose-là, eh bien, je perds quelque chose. On a ce sentiment de perdre quelque chose. Donc c'est vraiment une qualité sur laquelle on doit travailler. Alors ça peut nous sembler un effet difficile au départ, hein, c'est évident. Mais progressivement, donc en y réfléchissant et en nous entraînant, eh bien, nous pourrons l'intégrer réellement jusqu'à ce que ça devienne une attitude spontanée. Et on va se rendre compte finalement qu'on est bien plus heureux lorsqu'on possède rien du tout. Ça, c'était une expérience que j'ai vécue moi-même, parce que je n'ai pas toujours été mal, j'ai eu une autre vie avant, avec de l'argent, de l'appartement, plusieurs voitures, etc. Je n'étais pas plus heureux. Hein. Et maintenant que j'ai rien, je suis heureux. C'est paradoxe. Et curieusement, parce que je ne suis plus attaché aux choses, que j'ai rien, ben tout ce que j'ai besoin, ça vient spontanément. Je n'ai même pas d'effort à faire. C'est ça qui est incroyable. Quelquefois, je me dis, tiens, j'aurais besoin de ça. Quelques jours après, la chose apparaît spontanément devant moi, ou quelqu'un me l'amène. Mais en fait, j'ai besoin de rien. Et quelquefois, on me dit, même dans ma famille ou des amis, mais là-bas, est-ce que tu as besoin de ceci ? Mais je dis, non, j'ai besoin de rien. Les gens sont contents de me faire des cadeaux, bien sûr, mais j'ai pas besoin. Qu'est-ce que tu as besoin là-bas pour Noël ? Mais rien. Genre d'ici, quand même, du chocolat. Et même si on m'amène 10 paquets de chocolat, j'en donnerais les trois quarts, parce que je ne pourrais pas bouffer les 10 paquets de chocolat. Mais c'est un principe qu'il faut comprendre. Plus on est capable de laisser cette énergie circuler, plus on reçoit. Si on bloque cette énergie, l'égoïsme, c'est ça, c'est bloquer l'énergie. Parce qu'on a peur de manquer, on a peur de venir, on a peur on est tout le temps dans la peur. Et quand on a lâché cette peur, et se rend compte que finalement il n'y a aucune peur à avoir, parce que dès l'instant, quand on a suffisamment travaillé sur soi, comme je dis, les choses apparaissent d'elles-mêmes. Et même ce qu'on n'a pas besoin finalement, alors si on n'a pas besoin, on le redonne. Je me rappelle mon maître, le Guénéen Boucher, c'était comme ça, les gens venaient le voir, toujours avec des trucs, pas possible. Il venait lui offrir du vin, alors lui, il ne buvait pas d'alcool. Alors il offrait tout ça sur l'autel du Bouddha, voilà, chaque fois que quelqu'un lui offrait quelque chose, il le posait sur l'autel. C'est-à-dire que quand il est décédé, il a fallu nettoyer sa chambre et tout, on a trouvé toutes sortes de choses dans son hôtel. des punaises de couleur, des boîtes de punaises, des trombones de toutes les couleurs. Tout ce qu'il trouvait beau, il l'offrait au Bouddha. Voilà. Mais c'était simplement sa générosité, c'était beau, donc on offrait d'abord au Bouddha. Un jour, je me rappelle une personne qui lui a offert une bouteille de Chanel numéro 5, une grande bouteille comme ça, numéro 5. Offrir ça à la Mathilde Bétain, il ne sait même pas ce que c'est. Alors on l'avait mis dans sa salle de bain, et puis on dit, voilà, c'est une personne qui vous offre ça, et puis il me dit, qu'est-ce que c'est? C'est du parfum, pourquoi? Je sens mauvais. Vous savez ce qu'il a fait un jour? Il prenait son bain dans sa baignoire, il a vidé toute la bouteille de numéro 5 dans l'eau du bain. Et quand la Tibétaine qui s'occupait de lui est arrivée derrière, elle dit, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a, a plus de parfum dans la bouteille. Mais il dit, c'est dans l'eau, c'est dans l'eau. Pour lui, il n'était pas attaché à tout ça. Hein. Parfum numéro 5, je ne sais pas, une bouteille qui a dû coûter je ne sais pas combien de centaines d'euros, ou peut-être de milliers d'euros. Bon, lui, il n'était pas attaché. Bon, voilà, j'en profitais, je le mets dans mon bain. Il l'offre d'abord au Bouddha, puis après, voilà, et c'était tout le temps ça. Mais lui, il n'avait rien, rien. Et c'est parce qu'il n'avait rien qu'il avait tout. C'est ça le paradoxe. Il manquait de rien. Donc il faut comprendre ça. Vouloir à tout prix conserver pour soi, c'est là où on va manquer. Être généreux avec les autres, c'est là où on manquera de rien. C'est un principe fondamental qui est une logique au niveau de l'esprit. Donc on doit vraiment méditer là-dessus. Et puis faire des efforts, parce que ça s'apprend. Cette histoire de la pomme, au départ on a du mal. Mais c'est par des petites choses qu'on commence. Voilà. Petites choses, et puis après, les choses les plus importantes. Puis après on se rend compte que finalement, on n'est pas plus malheureux. Que finalement, cette chose-là, on n'en avait pas forcément besoin. Même si on en avait besoin, on n'en est pas mort. Et puis voilà. Ça pose plus de problèmes pour nous. Et c'est vraiment le début, on pourrait dire, de l'apprentissage à la libération, l'apprentissage à l'affranchissement du cycle des existences. Développer la générosité. Voilà, Vincent. Merci. Tu m'as pas mis de réveil aujourd'hui. Le temps passe vite. Ah, super. Et en effet, la compréhension que l'on va avoir par la réflexion, l'écoute des enseignements, la réflexion sur l'aspect éphémère des choses, tout est éphémère. C'est comme les nuages en ciel, ça passe. Et si on est attaché à tel nuage, on va souffrir parce que ce nuage-là va disparaître. C'est comme un arc-en-ciel. Ah, il est beau l'arc-en-ciel, alors qu'est-ce qu'il est beau? Je voudrais me l'approprier. Et vous ne pouvez pas, parce que tout est éphémère dans notre vie. Tout passe sans cesse. Nos biens, nos possessions, nos relations amoureuses, notre travail. On peut avoir un super job aujourd'hui et puis être viré dans quelques mois. Voilà. Et puis notre jeunesse aussi, c'est éphémère. Non mais c'est vrai. Regardons une photo de nous-mêmes quand on était jeune, adolescent. Oh, on est beau quand on est adolescent, on a la peau bien douce, bien tendue, tout ça. On est bien coiffé, on n'a pas de cheveux blancs. Et puis quand on se regarde là maintenant, quand je me regarde dans la lèche, je me dis, qui c'est ce vieux là? Vous voyez ma jeunesse? Tous les chanteurs que j'ai connus dans ma jeunesse, Elvis Presley, Johnny Hallyday, ils sont tous morts. Ah oui, puis un jour ce sera moi. Tout est éphémère. Alors pourquoi s'attacher aux choses? Pourquoi s'attacher? On fait ce qu'on a à faire, on développe des qualités, on est généreux, on développe des qualités d'éveil, mais on n'a pas à s'attacher à ça parce qu'on n'est que le passage. Voilà. Et si on est dans cet état d'esprit-là, la vie devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus douce. Moins problématique. Ce qu'il faut comprendre, c'est ne pas être attaché, ça ne veut pas dire rejeter les choses. Le non-attachement, c'est une qualité. On est capable de servir tout le monde, ceux qui nous sont plus proches de nous ou moins proches, de la même manière, mais ce n'est pas un problème. Ça ne pose pas de problème pour nous. Ce n'est pas un manque. Quelque part, de donner à quelqu'un quelque chose, c'est pas un manque pour nous de voir cette personne-là va partir pendant 6 mois ou 1 an quelque part, parce qu'on est toujours lié. Des certains instants, on n'est pas fixé que sur soi-même, le lien avec tous les êtres durs, perdurent. Donc, finalement, il n'y a aucun problème. Même si vous avez vos parents qui sont à l'autre bout du monde, vous ne pouvez pas les voir, vous les voyez qu'une fois tous les 2 ans ou 3 ans, mais si vous gardez ce lien au niveau de l'esprit, dans cet état d'esprit de générosité, de compassion et d'amour, vos parents ne vous manqueront pas. Vous serez content quand vous les verrez, mais c'est... moi, c'est ce qui se passe avec mes enfants, je les vois 2 fois par an. Les petits-enfants aussi. Mais ils ne me manquent pas, parce qu'il n'y a pas de séparation. Vous voyez, c'est le problème, c'est cette notion de séparation, cette notion comme s'il y avait des choses qui étaient coupées. Mais ce n'est pas coupé, nous sommes tous en lien les uns avec les autres, et ce lien est indestructible. Où que nous soyons, ce lien perdure. Et la générosité, elle se fonde aussi là-dessus, sur ce non-attachement. Aux gens, aux situations, à notre statut, à notre jeunesse, à nos amours, à notre fric, etc. La vie devient beaucoup plus légère, beaucoup plus facile, dans ce cas-là. Donc ça va nous apprendre vraiment, nous aider beaucoup, cette compréhension que toutes les choses sont impermanentes, sont éphémères, et nous pourrons donner, donc sans difficulté. Alors, il existe bien sûr différentes formes de générosité, parce que c'est toujours pareil. La générosité, pour qu'elle soit valable, ça demande de l'intelligence. Bien souvent, on pense être généreux alors qu'on fait n'importe quoi. Et d'une mauvaise manière. Lorsque nous donnons quelque chose, il est préférable de donner avec une motivation pure. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Cette motivation se manifeste d'abord par l'état d'esprit, ensuite par la nature de ce que nous donnons, puis aussi à qui nous le donnons, et finalement de la manière de donner. Vous voyez, ça implique tout ça, le véritable don, la véritable générosité. Alors, qu'est-ce que c'est que... des formes de générosité qui ne seraient pas pures. On parle d'impure, mais qu'est-ce que c'est qu'une générosité qui ne serait pas pure ? On parle d'abord de la générosité qui est celle qui est liée à un état d'esprit impur. C'est-à-dire, si nous donnons quelque chose dans le but de nuire délibérément, soit pour obtenir un certain pouvoir ou une certaine notoriété, ou encore, en espérer, si vous voulez, un retour dans cette vie, une récompense dans cette vie, ou même dans un but de compétition, de rivalité aussi avec les autres, eh bien, cette forme de générosité est complètement erronée. Elle n'est pas juste. Il est dit que celui qui s'engage sur l'éveil qu'on appelle un bodhisattva, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait le vœu de parcourir le chemin vers l'éveil, afin d'acquérir toutes les qualités d'un Bouddha pour pouvoir aider véritablement les autres, ce bodhisattva, il est dit, c'est celui qui ne pratiquera pas une forme de générosité conduisant soit à tuer d'autres êtres, soit à les emprisonner, soit à les punir ou les condamner, soit à les expulser ou les bannir. Il ne pratiquera pas le don dans l'espoir d'être célèbre et loué. Il ne pratiquera pas pour rivaliser ou se mettre en compétition avec les autres. Si nous pratiquons le don, cette générosité, le don, par peur de la pauvreté dans les vies futures, ou encore dans le but d'obtenir plus tard des richesses, des récompenses ou un statut particulier, eh bien là, il est dit que cette forme de générosité est aussi erronée. Maintenant, il y a l'attitude de générosité qui est lié à l'objet donné comme étant impur. Ça aussi, c'est pas valable. Si, par exemple, nous donnons des substances ou des objets tels que poison, armes, ou quelque chose étant susceptible de créer la souffrance pour nous-mêmes et pour autrui, cette forme de générosité est erronée. C'est terrible, parce que c'est ce qu'on voit en ce moment. avec la guerre en Ukraine, et puis ailleurs, il y en a eu d'autres aussi, on fournit des armes à tel camp, des traitements de l'autre, etc., etc. Il y a peut-être de bonnes raisons. Bon. En allant au-delà de la géopolitique, etc., etc., on pense qu'en donnant une arme à quelqu'un, c'est un acte de générosité. Mais cette arme, elle va servir à tuer d'autres personnes. Où est la générosité dans l'histoire ? Et donc il faut être vraiment conscient de ça. Cependant, il est dit quand même que le poison, donné à petite dose, peut être bénéfique pour quelqu'un. Alors là, si c'est vraiment ce cas, il faut le donner. En effet, il y a des médicaments qui sont à la base des poisons, mais s'ils sont donnés par petite dose, ça peut être des médicaments, véritablement, et soigner. Donc il faut faire la différence. À l'inverse, nous éviterons de donner à une personne une substance qui peut nous sembler bonne pour nous, sachant que cela lui est interdit, car nuisible à sa santé. Au fait, on accomplit beaucoup de choses par ignorance, par stupidité. Moi, je prends ce médicament-là parce qu'il est bon pour moi. Oh, tu devrais prendre ce médicament, je prends, il est bon pour moi. Mais qu'est-ce qui dit qu'il va être bon pour l'autre personne ? Ça se trouve, ça va lui nuire, ce médicament-là. Mais nous, on pense que comme il est bon pour nous-mêmes, eh bien, il va être bon pour l'autre. Alors que ça risque de faire l'inverse. C'est là, vous voyez, où il faut introduire l'intelligence dans ce que l'on fait. Et même dans la générosité. On ne fait pas n'importe quoi et n'importe comment. On ne peut pas offrir non plus quelque chose qui puisse provoquer la déchéance de quelqu'un. Tel que donner un enfant, par exemple, dans les pays, ils vendent même des enfants. Ou encore sa propre femme, quoique des fois ça peut être utile. Excusez-moi, mais... sans son consentement, bien entendu, ou son homme, hein, c'est pas là dans les deux côtés. Ou, c'est pratiqué dans certains pays. Ah oui, il faut savoir, dans certaines traditions, ça existe. Nous ne donnerons pas non plus quelque chose qui ne nous appartient pas. Ah oui, sans l'accord du possesseur, ou quelque chose obtenu de manière malhonnête. Si on sait que, par exemple, tel objet qu'on nous a donné a été volé, il serait stupide quand même de l'offrir à quelqu'un en pensant que c'est vraiment un acte de générosité. Sachant que cette chose-là a été volée et obtenue de manière malhonnête. Là, il n'y a pas de générosité là-dedans. Vous voyez ? Parce que ça laisse des empreintes karmiques, tout ça. Donc il faut vraiment être conscient de ça. Alors, il y a aussi une forme de générosité qui n'est pas juste, qui est à rejeter, qui est celle qui est liée à un réceptacle impur. Eh bien oui, on ne va pas pratiquer la générosité envers des êtres qui sont soumis à des forces négatives, qui sont susceptibles d'utiliser ce don pour nuire à autrui, par exemple. Hein ? Par exemple, nous n'allons pas, il serait stupide d'offrir une voiture, une belle voiture toute neuve et puissante à un chauffeur, à quelqu'un comme celui qui conduit mal, qui a eu déjà des accidents, et qui a peut-être provoqué la mort d'autres gens. Donc, il faut faire preuve un petit peu de discernement intelligent. On ne va pas offrir, par exemple, des cigares à quelqu'un qui fume énormément, sachant que ça peut l'emmener au tombeau, ou provoquer un cancer des poumons, etc. Vous voyez ? Et ce discernement qu'on doit avoir dans le choix de ce qu'on doit donner aux gens. Donc, peut-être que, au lieu d'offrir des cigares à cette personne, on aurait peut-être pu, je ne sais pas, lui payer une visite chez le médecin. Ça, c'est une véritable générosité. Quelqu'un qui est dans des difficultés, ou quelqu'un qui est alcoolique, par exemple, on va l'aider d'une autre manière, on ne va pas lui offrir une bouteille de vodka. Donc, voir justement quelle est la personne que l'on a en face de nous et le genre de générosité qu'on risque de pratiquer avec cette personne, savoir si c'est juste de le faire. Il y a une autre forme de générosité aussi qui n'est pas juste, qui est à rejeter, et c'est lié à des moyens de donner qui sont impurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si nous-mêmes nous sommes dans un état d'esprit qui est négatif, nous ne pratiquons pas ce don, le don. C'est-à-dire faire un don à contre-cœur, ou alors dans un état émotionnel de colère, ou de haine, ou dans une attitude de mépris ou d'irrespect. À ce moment-là, ce don n'est pas valable. Donner à quelqu'un, par exemple, que nous considérons comme étant inférieur à nous-mêmes, en le méprisant, le critiquant, en dévoilant ses fautes. Et tout ça, finalement, pour satisfaire notre ego, pour nous procurer une certaine bonne conscience, hein, et bien ça, c'est aussi une attitude qui n'est pas juste. Donc ça implique plein de choses, la générosité. Bon, ça, c'était des formes, évidemment, erronées de pratiquer la générosité, mais maintenant, il y a l'inverse. Hein. Comment pratiquer la générosité pure, hein. Eh bien, l'attitude de générosité liée à l'objet que l'on va donner. Nous pouvons considérer qu'il existe deux aspects de substance d'offrande, intérieur et extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'offrande intérieure dont il s'agit est liée à notre propre corps. C'est vrai qu'au cours de l'histoire, il y a certains êtres particulièrement évolués spirituellement, étaient en mesure d'offrir une partie de leur corps, l'ensemble même de leur corps, c'est-à-dire leur propre vie physique pour le bien d'autrui. D'ailleurs, quand on lit certaines vies antérieures du Bouddha, il y a eu des activités comme ça. Bon. Et pour pouvoir le faire, bien entendu, il faut avoir un très haut niveau de réalisation, avoir réalisé au moins la vacuité, quoi. Ce qui veut dire qu'on n'est pas attaché aux apparences. Donc il n'y a pas de souffrance dans ce cas-là. Nous, on est tellement fixés sur notre propre corps, notre propre vie, etc., que le faire, ça serait vraiment stupide. Par contre, il y a des gens quand même qui font un testament au moment de la mort, ils peuvent donner leur corps à la science, ou ils peuvent offrir un organe. C'est arrivé. Hein. Je pense à un acteur connu qui, sa sœur avait besoin d'un rein, sans ça, elle allait mourir, ben, il lui a offert un de ses reins. Ben, chapeau. Franchement, chapeau. Quelqu'un qui arrive à faire ça, c'est déjà un acte vraiment extraordinaire de générosité. Vous voyez ? Dans une de ses vies, d'ailleurs, le Bouddha Shakyamuni lui-même, tant que Bodhisattva avait offert son propre corps en pâture à une lionne et ses petits qui se mouraient de faim. Et donc il l'avait fait, mais parce qu'il avait cette capacité de pouvoir le faire. Dans les sutras, c'est les paroles du Bouddha, c'est les enseignements du Bouddha, les moyens discours qu'on appelle du Bouddha. Il est dit dans les sutras que si nous en avons la possibilité et que c'est nécessaire, lorsque l'on nous demande notre main, nous devons donner notre main. Bonjour, ça sera peut-être la meilleure manière pour moi de le faire, de couper la main. Si on me demande une jambe, il dit, nous devons la donner. Si on nous demande un œil, nous devons donner l'œil. Et si on nous demande la chair, nous devons donner la chair. Si on nous demande du sang, nous devons donner le sang. Ça encore, c'est faisable, plus facilement. Mais la générosité, on doit la pratiquer en fonction de ce que l'on est, de ce qu'on est capable de faire. Il ne faut pas aller au-delà. Parce qu'il est évident que si ça dépasse nos capacités, à ce moment-là, la souffrance, nous allons l'endurer. Ça ne sera pas vraiment une générosité juste, d'une certaine manière. Donc, pour nous, on va en rester quand même seulement à ce que l'on peut faire nous-mêmes. Donc, être raisonnable. C'est vrai que donner un œil ou un rein, par exemple, le vivant, et lorsque nous sommes en bonne santé, encore plus, alors là, c'est tout de même pas permis à tout le monde. Il y a seulement les êtres, évidemment, qui ont uni leur esprit dans la différenciation du soi et des autres, et qui ont réalisé parfaitement ce qu'on appelle la vacuité du phénomène, peuvent se permettre de pratiquer de tels dons sans en avoir de dommages pour eux-mêmes. Bon, ça, ce genre de générosité, ça sera pour plus tard, quand on sera devenu plus proche de l'éveil et de la perfection. Pour l'instant, on se contente à ce qu'on peut faire nous-mêmes, déjà. Nous possédons nous-mêmes, chacun, on pourrait dire, notre propre territoire. Et ce tiers-temps, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit de notre karma, de nos tendances émotionnelles. C'est l'histoire psychologique, j'entends, auquel on est identifié. Dans nos relations avec une autre personne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont donc deux territoires différents qui se rencontrent avec bien souvent des intentions qui sont opposées. C'est comme ça. On est tous différents et on n'est pas forcément en accord les uns avec les autres. Et tant que nous demeurons dans une relation opposée, une relation qui est séparée entre nous et les autres, il est nécessaire de nous entraîner jusqu'à être en effet en mesure de pouvoir échanger nos propres désirs avec ceux d'autrui. C'est-à-dire faire passer en priorité la volonté des autres avant la nôtre. Tant que nous sommes soumis à des saisies égocentriques, que nous sommes attachés à un « je », à un « moi » que nous chérissons tant, j'inverse les mots là, et que nous voulons pratiquer quelque chose de trop difficile, eh bien, ça va forcément engendrer plus de souffrance. Ça va renforcer la saisie égocentrique, et bien entendu, ça ne se dirige pas dans le sens de notre progrès spirituel. Le don de notre corps physique n'étant pas possible, bon, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure dans notre état actuel, nous devons l'utiliser pour venir en aide de la façon qui nous est la plus accessible. Et l'échange de soi et des autres est une excellente pratique que l'on pratique nous-mêmes dans ma tradition, ce qu'on appelle le tonglen, donc on imagine qu'on prend sur soi la souffrance des ailes, sous la forme d'une fumée noire qui pénètre dans nos narines, qui fond dans notre corps, et par le pouvoir de notre qualité éveillée, de notre état, de ce potentiel éveil qu'on a en nous, elle ressort en expiration sous la forme d'une fumée blanche qui pénètre dans tous les êtres. Alors on commence à faire cet entraînement-là de tomber, si je veux dire prendre et donner, avec des gens qui nous sont proches, c'est plus facile au départ. Puis petit à petit, on étend cette pratique aux gens qui sont dans notre entourage, après des gens, nos voisins, notre village, notre ville, notre pays, le monde entier, l'univers entier. C'est une pratique que l'on fait chez nous, qui fait partie de l'entraînement de l'esprit en 7 points, et on s'entraîne de cette manière à la générosité. Ça ne veut pas dire qu'on va être plus malade en prenant soin des autres, parce que pour en arriver là, il faut avoir un très très haut niveau de réalisation, au moins le 8 et le dernier, vous dites ça là, pour pouvoir le faire. Mais simplement, on entraîne notre esprit à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. En temps ordinaire, ce que l'on fait, on prend pour nous tout ce qui est bon et on refile aux autres tout ce qui est mauvais. C'est notre façon de faire. Hein. Regardons bien, soyons honnêtes. Voilà, avec cet entraînement, on va apprendre à faire le contraire. Je prends sur moi la souffrance des êtres et je leur donne tout mon bonheur, tout ce que je peux, sous cette forme-là de visualisation. Ça veut dire qu'on inverse nos tendances. Après, nous serons capables, en effet, de donner les choses sans remords, sans peur, etc., en considérant la souffrance des autres. Ne pas être sans cesse fixé sur notre propre nombril, on comprendra. Et c'est comme ça que la compassion, évidemment, se développe à partir de cet acte de générosité. Par exemple, si nous sommes malades, bon, ça peut arriver, on a le Covid ou la grippe, enfin, c'est courant, et que nous sommes alités avec la fièvre, forcément, nous pouvons utiliser donc cette souffrance passagère pour entraîner notre esprit. Si nous sommes à l'hôpital, par exemple, devons avoir une opération, etc., c'est ce que l'on fait, c'est notre entraînement que l'on doit faire. Nous pouvons penser qu'une multitude d'êtres subissent à ce moment-là les souffrances de la maladie. Donc nous imaginons donc que toutes ces souffrances pénètrent en nous, en notre cœur, pour se purifier, puis se transforment, comme je l'ai dit tout à l'heure, en lumière blanche, dotée de toutes nos qualités d'amour et de compassion. Et nous imaginons ensuite que cette lumière parfaitement pure rayonne depuis notre cœur dans toutes les directions et purifie les maladies de tous les êtres en leur redonnant la santé. C'est une bonne manière d'utiliser le moment difficile de générosité, donc c'est le moment en générosité pour le bien des êtres. Au lieu d'être là à nous lamenter, je suis malade, ceci, c'est cela, je suis obligé, j'ai la fièvre, je suis lamenté, mais on pense à tous les autres qui souffrent peut-être plus que nous, et on met en œuvre cette pratique-là. C'est une forme d'entraînement à la générosité. Et même si ça paraît subjectif, ça laisse des empreintes dans notre esprit. Des empreintes, justement, qui vont petit à petit s'ancrer en nous, et cette générosité deviendra de plus en plus naturelle. Nous n'aurons plus d'efforts à faire par rapport à cela. Alors ça, c'était l'offrande intérieure. On va parler de l'offrande extérieure. L'offrande extérieure, c'est sympa à comprendre, elle est liée aux objets extérieurs du corps qui sont dignes d'être une offrande. Ça concerne toutes sortes de choses, d'objets, comme on l'a dit déjà précédemment, qui appartiennent, nous appartiennent en propre. Ça peut être en effet de la nourriture, ça peut être des vêtements, ça peut être des meubles, des objets, des maisons, des terres, etc., en fonction de ce que l'on peut faire. Il y a des gens qui nous font des dons. Chez nous, nous vivons dans notre communauté, dans toutes les communautés, les soeurs chrétiennes, bouddhistes, de dons. Il y a des gens qui ont foi dans notre tradition, qui ont foi dans ce que l'on fait, qui ont confiance. Eh bien, ils nous font des dons. Et pour certains, même assez conséquents. Hein, ça peut être de l'ordre de plusieurs millions d'euros au cours des années. Et c'est, évidemment, c'est, tout ce qui nous a été donné, c'est pas nominatif à une personne, ça s'adresse à la communauté, et cet argent on l'utilise pour le bien des êtres. C'est-à-dire pour agrandir les centres de retraite, développer des activités d'enseignement, etc., etc. Mais il y a des gens qui n'ont aucun problème, ils ont en eux-mêmes cette fibre déjà de la générosité, même de leur vivant, ou au moment de leur mort, ils nous lèguent certaines choses, certains objets ou certaines maisons, pour qu'on puisse les utiliser pour le bien des autres. Donc, ce qui nous permet justement de pouvoir faire des choses. On a dans le projet pour l'instant d'établir un secteur de soins palliatifs dans notre monastère. Pour les vieux bouddhistes qui sont en fin de vie, qui n'ont pas envie de mourir dans un EHPAD, eh bien, mourir dans un centre bouddhiste, il y aura tout ce qu'il faut, les chambres aménagées avec le lit médicalisé, oxygène, etc., comme ça se fait pour la fin de vie avec les gens compétents autour. Cet argent des dons qu'on nous donne, c'est utilisé à des choses comme ça. À soutenir des enfants tibétains, leur permettre d'aller à l'école, etc., à construire des dispensaires, comme fait Mathieu Ricard, pour ceux qui vous connaissez. Il est vraiment dans cette dynamique-là depuis des années et des années. Tout ce qu'il récolte d'argent à travers les bouquins qu'il publie, les photos qu'il expose, etc., tout cet argent va à son association, Karuna Sechen. Il ne garde absolument rien pour lui. Je peux vous dire rien pour lui, hein, je connais, donc tout est donné, et ça permet de construire des dispensaires, là où c'est besoin, en Inde, au Népal, même au Tibet, de rénover des monastères, de construire des écoles pour les enfants, etc. On a la main chez nous qui fait ça, la main image, donne son nom, je n'ai pas peur de le dire. Il développe ça beaucoup au Népal, surtout après le tremblement de terre qu'il y a eu, il est parti là-bas. Il a récolté des fonds, il a reconstruit des écoles, il a refourni des cahiers aux écoliers, toutes choses pour qu'ils puissent continuer à étudier, etc., etc. Et ça, c'est l'argent des bienfaiteurs qui nous est donné, qu'on leur redonne. Voilà, on ne garde rien pour nous. Tout est redonné. Là, c'est une attitude juste, qui est vraiment l'attitude du Bodhisattva. Donc on peut tout donner. Le Bodhisattva, quand il est laïque, évidemment, dans cette démarche-là, il peut tout donner, même sa chemise. Mais par contre, nous, en tant que monastiques, il y a trois choses qu'on ne peut pas donner. Nos trois robes monastiques. Ça fait partie de nos vœux. Mais moi je me dis que si je rencontre quelqu'un qui meurt de foi, eh ben, je retiens mon zèle et puis je suis capable quand même de lui donner. Mais dans l'enseignement du Bouddha, et pourquoi le moine ne peut pas donner ses habits monastiques? Parce qu'il est dit qu'il ne pourra plus faire le bien d'autrui s'il n'a plus ses vêtements monastiques. Il représente quelque chose, il représente la communauté du Bouddha. Donc s'il n'a plus ses vêtements monastiques, les gens ne le considéreront plus comme un disciple du Bouddha. Ces gens sont beaucoup, se fient beaucoup aux apparences aussi. Donc c'est pour ça que dans nos vœux monastiques, on ne doit pas donner nos trois robes. La robe du bas, le zen du haut, et puis le zen jaune que l'on met dans les certaines cérémonies. Voilà, mais bon. Moi, si je dois donner mon zen, je le donnerai, ça ne retirera en rien au niveau de mes vœux. J'en ai d'autres de rechange, non. J'en ai au moins trois. Quand c'est un caisson, il faut bien remplacer. Donc, à ces offrandes extérieures. Alors maintenant, l'attitude de générosité qui est liée au réceptacle du don, c'est-à-dire à la personne à qui on va donner. Bon, là, c'est toujours pareil. Là, nous pouvons dire qu'il y a quatre types de réceptacles. Il y a les maîtres spirituels et les trois joyaux, ce qu'on appelle les trois joyaux, c'est Bouddha, le Dharma et Sangha. Bouddha, c'est l'éveil. Le Dharma, c'est l'enseignement qui nous mène à l'éveil. Et le Sangha, c'est la communauté de ceux qui sont engagés sur la voie de l'éveil. Et qui sont l'expression donc, spécifique et méritoire de la générosité. Mais aussi, il y a les parents en quel cette générosité sera utile. Ceux qui souffrent et ceux qui cherchent à nous nuire aussi. On doit être généreux par rapport même à nos ennemis. Ça, c'est plus difficile. Nos parents, parlons-en, nos parents. Évidemment, on n'a pas tous eu une histoire familiale forcément cool. Mais si on veut renaître, par exemple, dans la terre pure de Sukhavati, en lisant le sutra, je me rappelle une fois, il y a un passage que j'avais, je ne me rappelle plus de ça, il est dit « Quelqu'un qui a négligé de son vivant ses parents, qui ne les a pas soignés s'ils étaient malades, qui ne s'en est pas occupé, n'a aucun espoir de renaître en Sukhavati. » C'est-à-dire de progresser vers l'éveil, d'aller dans les terres pures après la mort. Donc ce qui veut dire que, hors les maîtres, évidemment, que l'on doit vénérer, les trois joyaux, etc., auxquels on doit faire des offrandes, ça c'est sur un support d'éveil, donc ce qui veut dire que ce mérite devient mérite d'éveil, comme l'éveil n'a pas de limite, l'éveil est infini, si on se sert de cet éveil comme support, le mérite lui-même que l'on aura donné devient lui-même infini. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être détruit. Comme disait mon maître, c'est comme mettre notre argent dans la banque de Dewachen, la banque de Sukhavati, la terre pure du Bouddha Mitama. Elle ne risque pas d'être dévalisée, rien ne peut se perdre. Donc ce genre d'offrande que l'on fait par rapport aux trois joyaux, c'est une offrande parfaitement pure, qui ne peut pas se perdre d'une certaine manière. Le mérite lui-même ne peut pas se perdre, et c'est ce qui va nous amener à créer les causes et conditions de la libération de la souffrance et de l'éveil ultime. Mais nos parents, c'est la vie quotidienne. Nos parents nous ont donné la vie. Nos parents, notre mère, elle nous a allaités, elle nous a nourris, elle nous a torché de nos excréments, elle nous a éduqués, elle nous a appris à parler. Si on n'avait pas eu principalement notre mère, aussi notre père, mais surtout notre mère, on n'aurait eu aucun espoir de survivre. Dans leurs vieux jours, alors qu'ils perdent leur capacité, peut-être leur tête, etc., on doit s'occuper d'eux comme eux se sont occupés de nous lorsque nous étions enfants. C'est un des principes que malheureusement on a beaucoup perdu en Occident. Dans d'autres cultures, ça se fait beaucoup. En Afrique, par exemple, les vieux restent avec la famille jusqu'à la fin. Même chez nous, on entend les gens naissaient dans les familles, vivaient dans les familles et mouraient dans la famille. Avec l'évolution du matérialisme, du modernisme, on refile nos vieux parce qu'ils nous gênent, la société n'en a plus besoin parce qu'ils ne sont pas productifs, ils ne peuvent rien apporter, puis nous, ils nous gênent parce qu'on a du boulot, parce qu'on a des charges, on a des choses à faire, donc on les met dans des EHPAD, dans des mouroirs. Évidemment, on pourrait prendre ça comme « bon, c'est normal, c'est la vie qui est comme ça ». Il y a quelque chose qui prend à son âme là-dedans. Tout le monde ne peut pas faire, évidemment, s'occuper de ses parents jusqu'à la fin de leur jour. Parce que la vie nous impose des contraintes à l'heure actuelle qui sont... Voilà. Mais dans l'esprit, c'est surtout dans l'esprit, on doit créer toutes les bonnes conditions pour que nos parents soient bien à leur fin de vie. Comme toutes ces conditions qu'ils ont créées pour nous lorsque nous sommes nés et que nous avons eu besoin d'eux. Ça, c'est une forme de générosité qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que cette manière de pratiquer la générosité doit être vraiment pure, faite de manière pure. L'intention doit être motivée, si vous voulez, par l'amour, par la compassion, dans le but d'être bénéfique aux êtres. Et le don doit être animé par la joie aussi. On doit être heureux d'être généreux. Parce que si on n'est pas heureux, si je donne quelque chose, et après je vais le regretter, je ne suis pas heureux, j'aurais pas dû donner, puis pas cette personne-là, finalement, m'a fait une vacherie, et tant d'années, etc. Si on n'est pas dans la joie du don, dans le plaisir d'avoir donné, eh bien, ce don ne sera pas levé et ne sera pas un véritable don, une véritable générosité. Nous devons nous réjouir de l'intention de donner et nous devons accomplir cette action dans un état d'ouverture d'esprit, engendrant une vaste dédicace, c'est-à-dire qu'on offre ça, mais aussi c'est pour le bien de tous les êtres. Je donne à cette personne, mais c'est comme si j'offrais cela à tous les êtres. Et je dédie le mérite de ce que j'ai donné à la multitude des êtres. C'est pas un mérite que je vais garder pour moi égoïstement. C'est un état d'esprit, vous comprenez ce que je veux dire là. Et nous allons aussi donner sans que ça crée évidemment de la souffrance chez les autres. C'est-à-dire que nous ne donnons pas quelque chose qui nous a été offert et qui pourrait engendrer de la souffrance et du mécontentement chez notre bienfaiteur. Nous ne donnons pas non plus si cela nous oblige à prendre à quelqu'un d'autre. Donc ça, il faut avoir du discernement aussi là-dedans. Et la générosité, elle sera pratiquée de façon continue, donc sans partialité, c'est-à-dire envers tous les êtres sans exception, ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas et ceux qui nous sont indifférents. Ensuite, lorsque le don est accompli, eh bien, nous devons être joyeux et sans regret. Vous voyez, ça implique quand même pas mal de choses, la générosité. C'est pas simplement le fait de... Voilà, il faut que plein de conditions, finalement, soient réunies pour ça. Ensuite, il y a une autre forme de générosité qui est celle qui protège de la peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Être généreux, c'est aussi protéger les êtres, hein, finalement. Les êtres qui sont menacés, les êtres qui sont en danger. Et ce danger, bah, il peut venir de différentes origines. Ça peut venir d'autres êtres qui sont malfaisants ou qui peuvent mettre la vie en péril. Les animaux féroces, par exemple, on parle de ça à l'époque du Bouddha, parce qu'il y en avait beaucoup, hein, dans les forêts tropicales, là, il y avait des tigres qui s'attaquaient aux humains. Protéger des brigands, des criminels, etc. Nous devons protéger ceux qui sont menacés par les maladies aussi, ou encore par les éléments, les tempêtes, les bourrasques, etc. On doit les protéger le temps que faire se peut. Si la maison du voisin flambe, par exemple, on ne va pas laisser le voisin à la rue. On va lui dire, ben, je vous héberge le temps que les choses puissent se remettre, mais je ne vous laisse pas dehors. Vous voyez, c'est cet état d'esprit qu'on doit avoir. Si on sait qu'il y a un voisin qui est malade, on va prendre de ses nouvelles. On ne va pas le laisser croupir dans son coin. Est-ce que cette personne a vu le médecin? Ah ben non, ben on appelle le médecin pour qu'il vienne voir cette personne. Et puis, il va lui faire une ordonnance. Et bien, on se dérangera nous-mêmes, on prendra l'ordonnance, on lui ira aller chercher les médicaments. Ou si des fois, ces médicaments, nous les avons déjà, nous-mêmes, parce que par médecin, on va lui donner. Ça, c'est un état d'esprit qui protège les êtres. Et il est dit que nous devons protéger ceux qui sont menacés, donc en effet par les maladies, les éléments. C'est l'attitude que nous pouvons qualifier chez nous, finalement, d'assistance à personne en danger. On doit avoir ce genre de générosité-là. Et cette forme de générosité doit être, il est dit, celle d'une mère. Une maman qui est attentive, qui protège son propre enfant de tous les risques pouvant attenter à sa santé et à sa vie. On doit avoir cet état d'esprit-là, lorsqu'on pratique la générosité. Et quand on observe les grands maîtres, moi qui vis depuis des années à leur côté, j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup malheureusement qui sont décédés maintenant, mais c'était des êtres qui avaient un tel amour, une telle compassion, que rien de les voir, on était envahis par cet amour et cette compassion. Ils avaient une générosité, mais sans infinie, une patience infinie. Et de vivre à côté d'eux, on comprend ce que c'est que ces qualités-là. On se dit, mince, si eux arrivent à ça, ils en sont là, moi je peux y arriver aussi. Ça va me demander des efforts, de la pratique, pendant des années, des vies peut-être, mais je veux devenir comme eux, empli de cet amour, de cette bonté, de cette générosité, qui n'a pas de limite, du moins dans le raisonnable. Donc, avoir ces exemples-là, je peux vous dire que ça stimule notre volonté, on peut dire notre détermination, notre persévérance à continuer à pratiquer pour être à leur exemple. Il y a des gens qu'on a connus, des gens comme ça aussi chez nous, Mère Teresa, l'abbé Pierre, ou d'autres, peut-être un plus anonyme, qui ont donné du temps. J'avais fait un stage chez Mère Teresa à Calcutta à une époque de ma vie. C'était une pratique pour moi. Je voyais tout le travail qui était fait par certains occidentaux qui venaient, ou même des indiennes, qui allaient chercher les gens qui mouraient dans les rues, etc., qui les amenaient. Il y avait un don de la personne, mais on ne pouvait pas laisser ces gens-là dans la détresse. Je me rappelle de ce jeune homme qui était malade sur un grabat. Je regardais, mais j'avais le cœur complètement démoli. Il me regardait avec des grands yeux, il m'appelait au secours. Je ne pouvais rien faire, il avait une maladie, je ne sais pas ce que c'était ce truc. J'avais mon malade avec moi, là. Et puis j'ai aussi été des mantras, puis à un moment donné, il m'a flingé, j'ai compris qu'il voulait que je le prenne dans ses bras. Mais ça m'a complètement démonté. Hein. Je me dis, il y a des gens qui font ça toute la journée. Moi, c'était la première fois que je faisais ça comme ça. Il faut avoir un sacré courage, et surtout, il ne faut pas être dans l'égoïsme. On donne son cœur, on donne sa vie aux autres, et c'est sans restriction, et on est heureux. Parce que quand on rencontrait Mère Teresa, je peux vous dire qu'elle pétillait de joie et de bonheur, alors qu'elle a donné toute sa vie. Et c'est un exemple parmi d'autres, il y en a plein. Ce sont des exemples qu'on a peut-être intérêt à côtoyer, qui vont nous montrer ce que c'est que l'amour, la compassion véritable, ce que c'est que la générosité véritable. Ce sont des enseignants, vraiment, des maîtres de vie. Et ça, chapeau. Ensuite, pour les personnes qui pratiquent une voie spirituelle, comme certains d'entre vous, j'imagine, l'assistance peut s'opérer aussi à l'aide de prières et de rituels, de souhaits, de rituels, de protection spécifique. C'est vrai qu'il y a des fois où on se sent complètement impuissant. Quand on voit la souffrance des êtres, quand on voit ce qui se passe dans certains pays où les gens prennent des bombes, voilà, tout est détruit. On voit ce qui se passe en Ukraine, mais c'est un exemple, il y a d'autres pays, ça s'est passé avant, etc. On ne peut pas rester insensible à ça, mais on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis impuissant. Je ne vais pas aller prendre un fusil pour aller défendre ces gens-là, mais je me ferai tuer au premier tournant et ça ne servira absolument à rien. Donc, ce qui nous reste, c'est la prière. La prière est faite pour ça. Et s'il n'y avait pas de gens qui prient à travers notre monde, sur notre planète, je peux vous dire, les maîtres le disent eux-mêmes, il y a longtemps que la race humaine n'existerait plus. Que notre planète aurait disparu. Donc la prière, c'est pas rien. C'est une disposition d'esprit qui mobilise des forces qui nous dépassent. Et ça, c'est utile, la prière. On reçoit beaucoup des demandes de prière tous les jours dans nos monastères, que ce soit ici, que ce soit chez nous, pour des gens qui sont morts, des gens qui sont malades, et des gens qui sont dans des difficultés. Ben, on fait des souhaits, des prières, on les inclut tous les jours, on récite leur nom, etc., etc. C'est une manière d'aider les gens, même si ça paraît subjectif pour celui qui forcément qui n'a pas de vie religieuse ou spirituelle, mais pourtant c'est efficace. Bon, je vais vous laisser un peu la parole après, j'ai juste un petit point à voir là. Là, on parle aussi de la générosité du dharma, c'est-à-dire du don de la vérité, de l'enseignement du Bouddha. Elle a pour objet tous les êtres qui sont intéressés, donc par l'écoute, la réflexion, et la mise en pratique de l'enseignement. Ceux qui ont de la dévotion et du respect envers ces enseignements et envers ceux qui enseignent aussi. Ben oui, le don du dharma, il est important parce que c'est ce qui donne les moyens aux gens de comprendre ce qu'elles ont envie, de comprendre ce qu'ils sont eux-mêmes, qui leur apprennent à se connaître eux-mêmes, à travailler sur eux, à travailler sur leurs défauts, à devenir de meilleurs êtres humains. C'est des pistes, c'est des outils qui ont été donnés par le Bouddha, qui ont été perfectionnés, pour dire d'une certaine manière, de façon que ça soit compréhensible à tous les âges, par tous les grands maîtres qui ont jalonné l'histoire du bouddhisme depuis 2600 ans. Cet enseignement est précieux. C'est pas simplement que des mots, parce que cet enseignement véhicule une énergie d'éveil. C'est des transmissions qui ont été données à maître d'ici depuis l'époque du Bouddha et qui n'ont jamais été perverties. Donc elles ont toujours un pouvoir efficace d'éveil. Si on les met en pratique, ces enseignements et ces pratiques qu'ils nous donnent, on peut être certain déjà de devenir un meilleur être humain et ensuite de parcourir les chemins vers l'état de Bouddha, le chemin et toutes les différentes étapes. Donc le don du Dharma, ça va au-delà, bien qu'il inclut tout ce qu'on a parlé au niveau de la générosité précédemment, mais ça va au-delà, ça agit sur l'esprit. Et comme tout est esprit, tout est une expression de l'esprit, manifestation de l'esprit, si on agit sur l'esprit d'une manière bénéfique, tout ce qui va émaner ensuite sera à l'image de ce que l'on aura travaillé sur notre propre esprit. Alors évidemment, il y a une façon aussi de donner une dharma. Dharma, il faut que ça soit fait d'une manière sincère. Quelqu'un qui n'est pas sincère, ou qui a des intérêts personnels, ou qui pense qu'il a un pouvoir, une renommée, une réputation, à ramasser de l'argent, ou des biens matériels, etc. Évidemment, ça c'est à bannir. Malheureusement, on a vu des charlatans partout, dans tous les domaines, et même chez nous. Et en général, on est assez vigilant là-dessus. Donc ça veut dire que ça nous ramène à nous-mêmes. Parce que ce qu'on doit donner à quelqu'un, il faut que ça soit quelque chose d'utile. Il faut que le dharma que l'on donne, cette vérité qu'on transmet, ces outils, soit pure. Transmis par un esprit pur, avec une intention pure, à quelqu'un qui est en mesure de pouvoir le mettre en pratique. Donc il y a tout ça qui est à réunir aussi. Vous voyez ? Et on peut transmettre toujours quelque chose de bien aux autres. Quelque chose qu'on a compris soi-même, quelque chose qu'on a expérimenté soi-même. On ne va pas essayer d'expliquer quelque chose qu'on n'a pas compris. D'ailleurs, moi-même, dans mes enseignements, je n'irai pas enseigner quelque chose que je n'ai pas étudié et intégré et compris ou réalisé moi-même. J'enseigne que ce que j'ai compris, parce que j'y mets mon expérience dedans. Et c'est ce qu'on doit faire avec les autres, même si c'est petit. Une petite chose, un petit sourire des fois à quelqu'un qui est dans la souffrance. Un bonjour. Vous voyez ? Un petit chocolat. Non, mais c'est des petites choses comme ça qui commencent comme ça, vous voyez, en fonction de ce qu'on peut faire, avec un état d'esprit pur. Regardez les enfants comment ils sont. Moi, je suis émerveillé quand je les vois, les petits. Ils sont un naturel, et quand ils vous donnent des choses, ils vous donnent. Quand je suis allé voir mon fils, il a une fille qui a 7 ans, j'avais des cadeaux, tout ça, je ne les vois pas souvent, puis j'avais acheté une tente de camping à ma petite fille. On l'a montée, son papa, elles sont faciles à monter, les tentes modernes maintenant, ça se fait très rapidement. Et puis ma petite fille était contente, elle rentre dans sa tente, et puis elle m'invite, elle dit « Papy, viens dans la tente ». Alors, mon fils avait installé des couvertures à l'intérieur. La première chose que ma petite fille a faite, elle dit « Papy, allonge-toi, je vais te couvrir pour pas que tu aies froid. » Elle m'a enveloppé dans les couvertures, c'est-à-dire j'étais tellement saucissonné, je ne pouvais plus bouger. Mais il y avait un état d'esprit tellement naturel, tellement pur. Ça vous fait fondre quand vous voyez ça. Malheureusement, on perd cet état d'esprit quand on grandit. La vie nous modèle d'une autre façon. C'est pour ça qu'on doit toujours garder cet état d'esprit d'enfant. Et bien si on le fait avec les gens, de manière naturelle, ma petite fille n'avait pas l'impression de perdre quelque chose en me donnant sa couverture. Hein. Elle l'a fait. Tout naturellement. Vous voyez ? Donc on doit avoir un état d'esprit bénéfique, quoi qu'on puisse faire, même si c'est minime, mais c'est même si c'est quelque chose de simple, d'ordinaire dans la vie quotidienne, ça doit être fait avec le cœur, sans arrière-pensée, sans bidouillage, sans magouille, etc. Ça, c'est vraiment la générosité. Après, si on pratique la générosité avec des arrière-pensées, de pouvoir, ou d'avoir une rétribution, ou d'avoir une position sociale, etc., tout ça, ça n'a rien à voir avec la générosité. Moi, j'appelle ça du commerce. Sous prétexte de générosité, parfois, on ne fait que du commerce. Je te donne ça, mais on pense dans sa tête, ça me servira pour plus tard. Ça, c'est du commerce. Ça n'a rien à voir avec la générosité. Et le monde fonctionne malheureusement comme ça en majorité. Pas tout le monde, heureusement. Il y a quand même des gens qui en ont fait là, en soi. Oui. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Notre ami Vincent, qui est avec le micro, là, il est prêt à vous le passer pour que vous nous chantiez une chanson.
Oui, bonjour, je voulais juste vous nous avez dit que le don du dharma ne se donnait qu'à celui qui peut le recevoir, celui qui est en capacité de recevoir. Vous pouvez expliquer un peu
Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui va débuter, par exemple, dans le dharma, on ne va pas lui donner un enseignement sur la vacuité, sur l'ultime. On va lui parler déjà.
Je ne comprends pas.
On va déjà lui parler de la base. Le dharma, c'est apprendre à se connaître, déjà. Se regarder soi-même, pour une fois. Se poser sur le coussin, arrêter toute activité et faire connaissance avec soi. Ben ça, tout le monde peut le dire, ceux qui l'ont expérimenté. Apprendre, par exemple, à méditer à quelqu'un. Qui ne sait pas. On va lui dire... Moi, la première fois que j'ai appris ça, j'ai rencontré un pratiquant zen chez des Shimaru à Paris, avant de rencontrer David. La première chose qu'il m'a appris à faire, c'est m'asseoir sur un coussin, me poser, m'apprendre à méditer. C'était tout simple. Mais il pouvait le faire. Il savait que je pouvais le faire aussi. Et il n'a pas été m'enseigner quelque chose que j'aurais pas pu comprendre avec lui. Oui, c'est ça. Il faut s'adapter. Et c'est comme un enfant. Un enfant, vous n'allez pas lui donner, s'il rentre à l'école, un programme de terminale. Vous allez donner un programme de CP, ce qu'il peut faire. Voilà. Et c'est une question de bon sens. Donc, la générosité, ben, elle s'établit aussi, même dans les petites choses. Et je vois maintenant, je peux vous dire, j'enseigne depuis 20 ans, ben, plus de 20 ans maintenant, ben, ce qui est utile à l'heure actuelle, ce n'est pas les grands discours. Et peut-être ce que je fais là aujourd'hui, c'est encore peut-être que des discours. Mais j'ai pu s'orienter maintenant mon enseignement, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, apprendre à devenir un meilleur être humain. C'est la base. S'il n'y a pas ça, on ne peut même pas espérer quelque chose de plus élevé, de devenir un Bouddha, de devenir un grand Bodhisattva. Si on n'apprend pas à être un meilleur être humain, apprendre à voir comment on fonctionne, voir ses défauts. Alors, le courage de se rencontrer soi-même, de voir, bah oui, notre égoïsme, de voir notre orgueil, notre jalousie, nos désirs, notre attachement. Ça, c'est ça la base. Et ça, on doit travailler là-dessus. C'est un sacré grand projet quand même, même si ça paraît vraiment basique, mais c'est pourtant élémentaire. Comment peut-on devenir un Bouddha si on n'apprend pas d'abord à être un meilleur être humain? C'est impossible. Et ça passe par les petites choses. La générosité, la pomme, d'une main à l'autre. Après, on peut la donner. C'est ça, devenir un meilleur être humain. Il y a une époque, je m'entraînais à ça. Comme je voyageais, j'allais dans les self-services, etc. Puis je voyais les gens qui regardaient les plats qui étaient alignés, là, tout ça. Puis je choisissais toujours le meilleur. Ils disaient, oh, celui qui est derrière doit être plus frais que celui qui est devant. Et ils laissaient celui devant pour les autres. Ben, une petite voix qui disait en moi-même, ben, fais le contraire. Prends le premier pour toi, ou si un fruit est taché dans la corbeille, ben, prends-le pour toi pour laisser le meilleur aux autres. Ben, je me suis entraîné comme ça. Cette petite voix, elle me disait, mais non, fais l'inverse de ce que tu as toujours fait avant. Maintenant, prends le moins bon pour toi et donne le meilleur aux autres. Et ça passe par ça. Ça passe par le fait que quand vous allez aux toilettes, ben, vous laissez les toilettes propres pour celui qui vient après. S'il n'y a plus de papier, ben vous mettez un rouleau propre, neuf. Enfin, propre, c'est sûr, mais bon, il est neuf. Et ça passe par les petites choses du quotidien. Vous allez manger, ben vous rangez, vous faites votre vaisselle, ça on apprend bien au monastère, hein. Nous, on a été éduqués aussi comme ça. Chacun lave son assiette, on va même faire la plonge des cuisiniers en cuisine, chacun à notre tour, on nettoie les vaisselles, les salles de bain, c'est une sacrée école. Si on ne fait pas ça, mais... Comment peut-on espérer devenir un grand bodhisattva? Ça passe par les petites choses du quotidien. Bonjour madame, bonjour monsieur, au revoir madame, au revoir monsieur, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux vous être utile? d'habitude, les gens ne font pas ça. Ils vous rencontrent dans la rue, ils vous insultent, ils vous bousculent. Enfin, je dis les gens, c'est pas tout le monde, bien sûr, heureusement, mais il y a un manque d'éducation, un manque, il y a une carence éducative dans les pays occidentaux, civilisés, soi-disant. Voilà. Et donc on doit reprendre de A à Z. Et moi j'ai compris que l'enseignement, maintenant, il doit passer d'abord par là. Par ces petites choses, réapprendre à être quelqu'un de correct, de présentable, comme disait Trump par Pochet, selon elle. Soyez présentable, soyez un être humain digne et présentable. Et ça passe par plein de choses. La tenue vestimentaire, la façon de se comporter, la façon de se relationner aux autres, etc. Si on ne fait pas ça, mais comment on peut être utile aux autres? Si on est un barbare, un sagouin, on ne sera pas utile à personne. Vous voyez? C'est très concret d'une certaine manière. Le bouddhisme, c'est vraiment aussi la vie quotidienne. Apprendre à quelqu'un d'être présentable dans le quotidien. Et la générosité en fait partie, bien sûr. Vous comprenez tout ce que je dis là? Ça vous paraît clair? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord là? Non, vous êtes tous d'accord forcément, c'est obligé. Même s'il y a des petits points, peut-être qu'ils ne sont pas clairs pour vous, mais ça s'éclaircit avec la pratique, oui.
Bonjour. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut s'occuper de ses parents quand ils sont vieux. Est-ce que si ses parents sont toxiques, ou ont été toxiques, et nous pompent toute notre énergie positive, on doit quand même s'en occuper, ou on doit s'en éloigner?
Oui, tout à fait. Là, je parlais évidemment dans le meilleur des cas, mais quelquefois, on est obligé de faire des efforts. Moi, je veux vous dire, j'ai eu un père qui n'a pas toujours été facile. Des fois, je m'engueulais, je dis, écoute, ça suffit maintenant, tu ne parles plus comme quand j'avais 8 ans. C'est fini. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont toxiques. On ne va pas les rejeter pour autant. On ne va peut-être plus les fréquenter parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas les transformer à leur âge, ils ne peuvent pas changer, mais s'ils venaient à manquer de nourriture, on ne les laisserait pas mourir de faim. Vous comprenez ce que ça veut dire, quelque part? Et ça va être même pour un ennemi, quelqu'un qui nous a fait des vacheries dans notre vie. Bon, si un jour il frappe à notre porte, qu'il a besoin de manger ou d'un abri pour dormir, peut-être qu'on le fera, peut-être. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter. J'avais donné un enseignement sur le pardon, d'ailleurs, hein, au grand-père, l'année dernière, ça fait un an. Et tout ça a été vraiment exposé pendant les 2 jours d'enseignement. Et c'est ça. Il faut introduire l'intelligence là-dedans. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens, on n'a pas envie d'être gentil avec eux, mais si un jour ils sont dans le besoin, ils sont dans la souffrance, si on les voit se faire renverser par une voiture dans la rue, on ne va pas les laisser crever. On va venir, on va essayer de les aider, on va appeler l'ambulance, etc. etc. Oui, c'est cet état d'esprit, ça ne veut pas dire pourtant qu'on va les fréquenter. Oui. Donc, vous voyez les nuances. Hein. C'est... Mais la générosité, elle est... peut prendre toutes les formes, et en même temps, elle est intelligente. C'est pas quelque chose de stupide, la générosité, c'est quelque chose d'intelligent. On doit être intelligent dans ce que l'on fait, c'est réfléchir, avoir la connaissance du cœur. L'intellect joue, mais il faut laisser parler le cœur. Le cœur, vous savez, le cœur, c'est ce truc-là, on parle du cœur, c'est par l'organe. C'est le chakra du cœur, c'est là où réside l'amour et la compassion en nous-mêmes. Arriver à passer de là à là, c'est le chemin plus difficile pour un être humain, c'est 30 cm. D'abandonner trop l'intellect et d'être plus avec le cœur. Le cœur, c'est ce qui va nous permettre de servir les autres. C'est ce qui va nous permettre d'être généreux. C'est ce qui va nous permettre aussi de montrer des qualités aux autres, d'être un exemple aux autres, le cœur. La méditation nous amène progressivement à nous reconnecter à notre cœur. Chose qu'on a oublié, bon, beaucoup. On arrête de se prendre la tête, on arrête cette course effrénée au pseudo-bonheur et on se pose. Il n'y a rien à faire. Se détendre le corps et l'esprit, ouvrir l'esprit, puis regarder ce qui se passe, les pensées. C'est ce qu'on apprend dans la méditation, et c'est ce qu'on va faire demain d'ailleurs. Je vous invite à 15h pour la séance de méditation. Donc, on va faire comme à chaque fois que je viens. J'enseigne le samedi et le dimanche, on pratique. Comme ce que fait aussi, il est parti dans le sens, il a disparu. Ce qu'il fait Vincent tous les samedis, vous pouvez le dire, il y a toujours du monde d'ailleurs. Hein, quand... Voilà, on apprend ça, on se reconnecte à nous-mêmes, on arrête d'être fasciné par le monde extérieur, et puis on se pose, on dit, mais attends, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour les aides jusqu'ici? Je n'ai fait penser qu'à moi. Je suis coléreux, plein de désirs, plein d'orgueil. J'en ai marre, je ne veux plus être comme ça. Donc je regarde tout ça dans la méditation et j'accepte ça. J'apprends à transformer ça en sagesse, à libérer les pensées, à libérer la colère quand elle s'élève. En temps d'hier, quand la colère s'élève, on est complètement... On n'a même pas de distance, on est identifié à la colère, et forcément ça nous amène à des actes inappropriés. La méditation, elle nous permet de créer de la distance entre ce qui s'élève dans l'esprit et ce qui est possible de faire ensuite. On apprend à gérer tout ça petit à petit. C'est comme ça qu'on apprend à devenir un meilleur être humain. Et si on ne fait pas ça, ce sont des outils excellents, excellents. On peut mettre, tout le monde peut mettre ça en pratique, même si c'est dur au départ. C'est un entraînement. Hein. C'est pareil, on en vient à la persévérance. Une des qualités des paramitas, donc persévérance. C'est pas parce qu'on a des obstacles au départ qu'il faut abandonner. Il faut surmonter ces obstacles, persévérer. Et petit à petit, les obstacles sont bons. C'est beaucoup plus facile. Comme la générosité. Au début, on se force pour être généreux, avec des intentions, on attend une récompense. Et puis après, ça s'en rabote, tout ça. Ça s'élimine et on fait les choses de manière naturelle. Vous voyez, c'est un entraînement en fait qui va faire que ces qualités vont devenir, on pourrait dire, partie intégrante de notre être intérieur. On va être comme ça. Quelqu'un qui est bon par nature, ben, il est bon. Il ne va pas se poser la question est-ce que je dois être bon ou non. Il est bon par nature. Quelqu'un qui est généreux, c'est pareil. Il ne se pose pas la question. Après, ça a été un gros problème lors de mon premier voyage en Asie, parce que là-bas, c'est des pays tellement pauvres. On a envie de donner, et puis on a mauvaise conscience. C'est-à-dire, si je donne pas, quand il y a quelqu'un qui nous tend la main, ces gens qui se vautrent sur le sol, qui n'ont plus de jambes, qui ont la lèpre, tout ça, j'ai connu ça à l'époque, dans la Calcutta, dans les bidonvilles, et tout ça, c'était l'horreur. Et on culpabilise, on dit alors on va donner, on tient ça là, mais c'est interminable. Vous allez donner, même si vous donnez à 1000 personnes, 10 000 personnes, il y en aura toujours qui vont. Parce qu'il y en a qui font aussi un job de ça, un métier de ça. On est mendiant père en fils parce que ça rapporte aussi. Vous voyez c'est... Et à un moment donné, je me dis, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu vas donner tout ton fric et qu'est-ce que tu vas donner? C'est toi après qui vas mendier. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et j'ai posé la question à des lamas tibétains à l'époque. Ils m'ont dit, non, il ne faut pas que tu fasses ça. Évidemment, si tu vois quelqu'un de malade, tu vas l'aider, lui acheter des médicaments. Nous, ce qu'on fait, on fait à manger tous les jours des grosses gamelles dans le monastère de Béroquetsa à côté. J'allais manger avec eux, ils font des grosses gamelles, ils invitent tout le monde. Tous ceux qui ont faim, ils viennent. On leur sert à manger. Ça, c'est intelligent. Et donner une pièce à l'un, à l'autre, vous ne savez pas ce qu'il va faire avec, déjà. Peut-être ça va être utilisé à mauvais escient, peut-être à bon escient. Mais il y a une autre façon de faire. Ça m'avait posé vraiment un problème, ce truc de générosité. J'ai beaucoup appris là-bas et j'ai compris qu'il fallait avoir un certain discernement et donner aux gens ce qui est utile pour eux avec intelligence. Et leur donner à manger, ça c'est du concret, c'est utile. Tu as faim, tu viens manger. C'était offert, tu n'as rien à payer. Mais nous, les moines, on était accueillis dans le monastère, on n'a jamais donné un centime. On faisait des offrandes, bien sûr, mais ce n'était pas payant. On était nourris gratuitement. Pendant les cagumes là, par exemple, là-bas, bah, c'est comme ça se passe. Et même, on nous donne de l'argent. Les moines, les nonnes, sont des supports de générosité pour les gens qui pratiquent. Et je me rappelle, il y avait une femme qui était très riche, je pense qu'elle était chinoise, d'ailleurs, et le disciple du Karmapa, mais elle payait tout ce qui concernait les frais pour le Kagyumala qui réunissait des milliers de personnes. Et tous les jours, elle donnait des liasses de billets comme ça à des moines pour qu'ils nous les distribuent. Et ils pensaient trois fois par jour. 100 roupies, 100 roupies, 100 roupies. L'après-midi recommençait, 100 roupies, 100 roupies, 100 roupies. Après, bon, ça va, ce qu'on faisait de cet argent. Là aussi, on est face à nous-mêmes, c'est avec ça. Mais pour vous dire, pour cette personne, on était des supports de pratique, des supports d'éveil, d'accumulation de mérite. Les moines n'ont pas d'argent, ils ne travaillent pas pour gagner de l'argent, ils font autre chose, ils prient, etc. Donc on doit subvenir à leurs besoins, comme ça se faisait au Tibet, comme ça se faisait en Inde, etc. les moines allaient mendier leur nourriture dans les rues. Alors, évidemment, on ne peut pas la plus faire, nous ici, on se retrouverait au commissariat de police. Mais je veux dire, c'est dans la pratique spirituelle, c'est ça. C'est vraiment le don, la générosité, c'est quelque chose qui est important pour un pratiquant. C'est utile, c'est important, mais pas n'importe quelle générosité, pas n'importe quoi, à n'importe qui et n'importe comment. Tout ce qui a été dit, évidemment, on pourra en rajouter encore. Vous avez des questions, les yeux.
Bonjour. Beaucoup de femmes dont je suis ont été conditionnées à la générosité. Voilà ce que je veux dire. Il nous a été transmis.
Oui.
Qu'il convenait de s'oublier, de penser aux autres avant soi, et pour de mauvaises raisons. Alors, ce que j'ai pratiqué, toute proportion gardée, mais j'allais dire pour de mauvaises raisons. Parce que c'était pour être aimé, pour être une bonne mère, une bonne épouse, etc. Alors, de mauvaises raisons. Enfin, je pense que d'autres femmes se reconnaîtront.
Mais il n'y a pas que les femmes. Hein.
Ouais. Et donc, mon idée, c'est. Enfin, ma demande, c'est. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette habitude, mais qui est conditionnée, pour pratiquer la vraie générosité?
Oui, tout à fait.
Ou alors, comment revenir à l'élan naturel du cœur? Voilà. Comment orienter l'esprit autrement, faire l'expérience autrement? Parce que moi, maintenant, j'en suis parfois un peu calculer ma générosité parce que j'ai bien senti qu'elle n'était pas juste, enfin que l'intention n'était pas correcte, enfin elle n'était pas pure. L'interrogation.
Mais on peut changer nos habitudes. C'est un conditionnement, on nous a appris ça comme ça, mais ça peut changer. Mais c'est pour ça que l'enseignement sert à ça, à nous donner d'autres pistes, à nous dire c'est possible de le faire d'une manière saine, pure, etc. Et ces talents-là, on peut le transformer, Donc après, il y a toutes ces pratiques dont j'ai parlé, l'entraînement d'apprendre à donner, apprendre la souffrance sur soi, etc., mais d'une manière pure, et voir nos intentions à chaque fois. Et quand l'intention n'est pas bonne, on se dit là ça va pas, là. Ta générosité, c'est du pipeau, là. Il faut que tu rectifies ça, parce que t'attends une récompense derrière, t'attends une reconnaissance de la société, pour que l'on m'aime, aimez-moi. Non, pour que vous m'aimiez, je vais vous donner. Oh là là, je vous donne, aimez-moi derrière, il y a tout ça, même si on ne le formule pas. Je veux qu'on m'aime, au secours, voilà. Quand c'est animé par ça, la générosité, c'est qu'un problème. Donc moi, je dis aux gens, à ce moment-là, si c'est vraiment ancré en soi qu'on n'arrive pas à déraciner ça, il faut aller voir un psy. Il faut faire une thérapie. C'est utile, hein. Et ça peut nous amener à aborder le dharma d'une manière beaucoup plus saine. Quand on aura fait un peu le ménage, on aura vu un peu nos fonctionnements erronés, nos névroses, intérieur, on pourra aborder l'enseignement du Bouddha d'une manière beaucoup plus saine. Ça, c'est ça à chacun de voir, mais en même temps, bah, c'est bien de venir écouter l'enseignement, parce que c'est des pistes déjà, des prises de conscience, et ça nous ramène toujours à nous-mêmes, d'une certaine manière. Toujours ça nous ramène à nous-mêmes, à notre fonctionnement, notre manière de faire, d'interpréter les choses, notre manière d'être. Et on voit, c'est comme un miroir, le dharma, c'est un miroir. On voit notre face dans la glace, alors des fois, c'est pas très bien plaisant, parce qu'on a des choses qu'on n'a pas trop envie de montrer, de voir, de nous-mêmes. Mais c'est le prix qu'il faut payer. Bah ouais, voilà. En fait, je crois d'être généreux, mais en fait, je suis le pire des égoïstes, parce que j'attends toujours un résultat pour moi. Et bien ça, j'en veux plus. Je décide de ne plus être comme ça. Donc je mets tout en mouvement pour que ça change. Bah, des fois, c'est long à les raciner, parce que c'est des habitudes qui sont bien huilées, si vous voulez. Nos défauts. Ça, c'est, comme disait mon maître, c'est depuis des temps sans commencement qu'on les a entretenus. Et pour pouvoir démonter ça, il faut du temps. Et il faut des sacrées ouvres boîtes hein, pour y arriver. Mais c'est comme ça. Chacun doit porter sa croix, comme il est dit dans les évangiles. Portez la vôtre, mais moi, je ne peux pas porter la vôtre. Ça veut dire qu'on a des efforts à faire. Il faut apprendre à se connaître, savoir qui on est dans nos qualités, nos défauts, parce qu'on n'a pas des défauts, bien sûr, heureusement. On a toutes les qualités potentielles en nous. L'éveil de Bouddha, on l'a en nous. Seulement, on est tellement recouvert par les voies de l'ignorance et des actes négatifs qu'on a commis par le passé qu'on ne le voit pas. Donc tout ça, il y a un travail à faire pour lever ces voiles, pour lever toutes ces, ses conditionnements, ses mauvaises habitudes, ses comportements erronés, émotionnels, etc. C'est tout un travail sur soi. Et ça, il n'y a pas. On ne peut pas faire autrement. Vous comprenez ? S'il y a vraiment une chose que je peux vous dire, si vraiment ça vous intéresse tout ça, c'est d'approfondir la question. Ne pas en rester à ce qui a été entendu aujourd'hui. C'est souvent ce que je dis aux gens, mais approfondissez tout ça. Étudiez l'enseignement du Bouddha, écoutez des enseignements et commencez à apprendre à pratiquer, à poser votre derrière sur le coussin et puis à avoir ce courage de vous regarder en face. Commencez, il y a un début à tout, c'est dur au début, mais après, on dirait que t'es bien fait, certainement. Parce qu'en fait, on a tous envie d'être heureux, on a tous soif de ce bonheur, seulement on s'y prend comme des manches. C'est-à-dire que le bonheur, on s'imagine que c'est par l'acquisition de choses extérieures à nous-mêmes, des biens, des possessions, de l'argent, du pouvoir, des honneurs, la reconnaissance des gens, etc. etc. Mais tout ça, c'est bidon. Le bonheur, le véritable bonheur, on ne l'obtient pas de cette manière. C'est par la connaissance de soi et la purification intérieure de ce qui est mauvais qu'on acquiert le bonheur. Et le bonheur, en fait, il a toujours été là. Elle a toujours été là, seulement on ne le voit pas. Donc il faut nettoyer le terrain. C'est comme un miroir. S'il y a plein de poussière sur le miroir, comment vous allez pouvoir vous regarder dans le miroir ? Ben, il faut d'abord faire du nettoyage. Voilà. Plusieurs fois, des fois, c'est trop sale. Mais c'est ça. Donc ça demande en même temps toutes ces qualités dont j'ai parlé au début, ces paramita. La patience, la persévérance, il faut avoir la confiance, il faut avoir la foi, la dévotion, et l'esprit de renoncement aussi, parce que là, on a des choses auxquelles il faut renoncer. Les mauvaises habitudes, on doit les abandonner. Renoncer, donc aussi, ça ne veut pas donner tous ses biens forcément, et se retrouver tout nu dans une forêt, dans le dénuement le plus complet, dans une grotte, dans l'Himalaya, subir le froid, c'est pas ça. Le véritable renoncement, c'est abandonner ce qui est mauvais en nous. C'est ça. C'est pas forcément d'avoir une belle voiture ou un bel appartement. C'est de savoir comment on vit ça. Si c'est avec attachement, si c'est avec égoïsme, si c'est. Voilà. Mais rien n'est mauvais dans le monde. C'est notre interprétation des choses qui est mauvaise. Vous voyez ? C'est curieux. L'image des gens, je vois, moi l'été, bon, j'ai une casquette, je me protège du soleil au monastère. Il y a des gens qui me font remarquer. C'est moi qui ai une casquette. Comme si un moine, il ne devait pas avoir de casquette sur la tête. Ben oui, j'ai une casquette. De cette couleur-là, mais j'ai une casquette. Parce que c'est utile pour ne pas avoir une insolation. Et une fois, j'avais les cheveux un peu plus longs que ça, un peu longs comme ça. Je sors du monastère, une personne était là, assise sur les bancs devant la boutique, elle me regarde et dit « Mais je croyais que les moines devaient se raser les cheveux systématiquement, sans me dire bonjour, hein, rien. » Je regarde, je dis « Monsieur, ici, c'est pas les cheveux que l'on rase, c'est la saisie égocentrique. » Il n'a pas compris ce que je lui ai dit. Oui. Tout est dans l'état d'esprit, dans ce que l'on fait. On peut être quelqu'un d'éminent, d'avoir fait beaucoup d'études, d'être bardé de diplômes, et puis être un piètre être humain. C'est ce que je dis souvent aux étudiants. Vous avez soit d'étudier, soit d'études. Mais faites attention. L'étude, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité. Parce que vous pouvez devenir orgueilleux de votre savoir. Et vous serez toujours orgueilleux, même si vous avez 3 ou 4 doctorats. C'est pour ça qu'il est important. Parce qu'au moment de la mort, bah, vous mourrez quand même comme un être ordinaire orgueilleux. Donc il faut faire la différence avec tout ça. Et des gens simples, en général des gens simples, humbles, on reconnaît tout de suite leur qualité. Ils n'ont pas forcément une grande instruction, mais ils en ont une, qui est celle du cœur, la bonté. Et Ben, soyons comme ces gens-là. Il faut quand même étudier un minimum. Je ne vais pas nier le fait qu'on a besoin d'étudier, évidemment. C'est comme quand on veut se rendre à Paris, par exemple, d'ici, on ne connaît pas la route. Imaginons, on n'a pas de GPS, on a juste une carte. Il va falloir établir le chemin, par où passer, quelle ville, etc. Mais à un moment donné, il faut poser la carte, et puis prendre sa voiture, ou le train, imaginons, puis partir. Si on ne rentre pas dans sa voiture et qu'on ne part pas, ben on ne sera jamais à Paris. Donc l'étude, c'est bien en premier temps, ça nous donne la direction, et après on se met en route. Vous voyez ? Il est bavard ce moine, non ? Il est bavard. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur, et puis j'espère que pour tirer un peu profit de tout ce qui a été entendu, et surtout approfondir les choses. Parce que bien souvent on entend ça, ah, c'est bien ce que tu dis là et tout, puis après on a oublié. Quoi. Et ça m'est arrivé des fois d'interroger des gens, peut-être 15 jours après ou un mois après, j'ai devenu enseignant, ils ne se rappellent même plus du thème que j'avais donné, que j'avais enseigné. Mais... Donc c'est quelque chose qui doit nous nourrir intérieurement, sur lequel on doit revenir et sans cesse et sans cesse. Il y a des paragraphes d'enseignement, mais au bout de 40, presque 45 ans de dharma, que je relis encore, qui m'inspire, et je les relis encore, et je les relis encore, parce que c'est inspirant. Il ne faut pas se contenter simplement d'un petit courant de sagesse qui passe comme ça, il faut la réaliser vraiment, la sagesse. Et ça demande un effort. Ça, c'est incontournable. Parfois, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Il y a des gens qui se complaisent dans leur vie, comme ça, bon, ben, du moment qu'il manque de rien, nécessaire, tout est bien. Les autres, bon, on verra si j'y pense un jour. Mais c'est pas ça. Parce que demain, la vie peut basculer. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui, puis tout peut disparaître demain. On peut perdre son conjoint, on peut perdre un enfant, on peut perdre son boulot, on peut perdre ses biens, ses possessions. On peut perdre la santé, se retrouver d'un seul coup avec un cancer incurable, voilà, ça fait réfléchir après. Donc tout est impermanent, tout bouge sans cesse, il ne faut pas perdre de temps. Cet instant qui est là, où on a toute notre conscience, où on a nos possibilités de pouvoir étudier et pratiquer, il ne faut pas le perdre, parce que rien ne prouve que demain, ça sera comme ça. Parce qu'on voit bien, les personnes les plus âgées parmi nous peuvent le certifier. On n'est plus comme à 20 ans, je suis désolé. On a moins de facultés de mémoire, on a plus de difficultés pour certaines choses, de compréhension, etc. Et ça ne dure pas, toute cette jeunesse, ces qualités, les biens, les possessions, ça ne dure pas non plus, la santé, ça ne dure pas. Et un jour, il faudra qu'on meure, qu'on abandonne ce corps. Tout ça, qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. On ne peut pas y échapper. Donc, l'instant, on est là, on est en vie et on essaie de faire au mieux, le mieux que l'on peut, que ce ne soit pas dans l'égoïsme, mais plutôt dans le service aux autres. Et c'est ça, comme ça, que l'on devient meilleur. Et qu'on est utile. Parce que c'est ça, c'est d'être utile. Chaque fois qu'on est égoïste, qu'on pense qu'à soi, on est utile à rien du tout, même pas à nous-mêmes, d'ailleurs. Au bout du compte. Qu'est-ce qu'il nous a balancé aujourd'hui? Voilà, on va clôturer ce petit enseignement. Je vous remercie d'avoir été là et vraiment à l'écoute. Puis je crois qu'on peut boire quelque chose, on peut se réunir en bas comme on fait d'habitude, boire un thé, manger des gâteaux, etc. Puis échanger entre nous. C'est important aussi ça. À moins que vous soyez pressé de partir, évidemment c'est possible aussi, vous avez des choses à faire. Mais c'est un moment quand même assez convivial. Et comme nous sommes des gens généreux, puisque c'est le thème de cet enseignement, on va faire la dédicace de tout le mérite pour le bien de tous les êtres par cette prière que je vais réciter. Om Sadam Bhidam Jesupani Domeni Bhedana Bhaji Kegana Jemola Dupa Isi Bhetsole Doroa Doroa Jom Jambel Bhava Jita Gama Tanguto Sampo Deyan Dejite Et ta gente je som da rochine de wadi ta nam che la lu. Sangue kusum ne pe jira tam che ne mi jor de pe jira tam. Gengé, Miché, du Péjé, la Kéjé, Tango, Abola, Dupa. Merci à vous tous.
Votre ordinateur.
Juste ça, c'est plus pratique.